18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous, bienvenue, ravie de vous retrouver pour deux heures d'information, d'analyse, de débat. Comme chaque soir, c'est l'actualité jusqu'à 20h sur Europe 1. À la une ce soir, le droit de retrait. Ils sont de plus en plus nombreux. Ces salariés qui veulent ne pas venir au travail se sentant trop exposés au coronavirus. Comme ces enseignants de l'Oise qui menacent de faire valoir ce droit. On en parle dans un instant dans le journal de Sébastien Krebs dans ce studio. Il a engrangé les victoires lors du Super Tuesday. Joe Biden est-il un bon candidat pour battre Donald Trump à la prochaine élection présidentielle américaine? Il engrange un soutien de poids ce soir, celui de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Je pose toutes ces questions à Léa Pizarre, elle est franco-américaine. Elle était l'ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche. 19h30, on parle des femmes, de toutes les femmes. 2000 portraits de femmes à travers 50 pays. Le documentaire est sorti aujourd'hui. Woman, signé Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. Ils seront avec nous en direct dans ce studio. C'est parti pour écouter ensemble Le Monde Changé jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
La vie du pays ne s'arrêtera pas à cause du coronavirus.
La France ne sera pas paralysée par le virus, rassure le gouvernement, mais il est peu probable qu'on échappe au stade épidémique.
Quelles mesures de prévention, de protection pour les salariés, les agents des transports, les enseignants? Certains menacent de faire valoir leur droit de retraite.
Le musée du Louvre, quant à lui, a pu rouvrir aujourd'hui.
Est-ce la fin de l'ubérisation? Les chauffeurs doivent être salariés, dit la Cour de cassation.
Ce n'est pas une bonne décision, de notre point de vue. C'est une décision que l'on regrette, mais il s'agit d'une décision d'un cas particulier.
La réponse du et on verra quels enseignements en tirer. Aux États-Unis, la surprise, Joe Biden, on le disait fini. Il remporte 9 États et lance le duel final contre Bernie Sanders.
Et puis Greta Thunberg, invitée à la Commission européenne, elle n'a pas vraiment été convaincue par la loi climat.
Cette loi climat est une capitulation, car la nature ne négocie pas. Nous ne vous laisserons pas capituler alors que notre futur est en jeu.
La bourse de Paris reprend 1,3% ce soir à 5 464 points.
Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie,
notre
bonsoir
ciel
à tous.
Demain.
Ouais, bah, j'espère que vous êtes prêts à l'entendre, puisque demain le programme c'est de la pluie, du vent, de la neige et de gros nuages. Vous l'avez compris, c'est une belle journée qui se prépare. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est une situation qui se dessine de plus en plus précisément. Le passage au stade épidémique. La France n'échappera pas à ce stade 3. En tout cas, c'est peu probable. Confirmation aujourd'hui à l'issue d'un nouveau conseil de défense à l'Élysée consacré à la lutte contre ce coronavirus. Mais discours rassurant, lorsque ce stade sera atteint, la vie ne s'arrêtera pas. Écoutez Sibeth Ndiaye.
Nous faisons face avec beaucoup de résolution à la situation qui se présente. C'est une situation qui est maîtrisée. Le pays ne va pas s'arrêter de fonctionner purement et simplement, y compris si nous avons une épidémie de coronavirus. Nous prenons des mesures en fonction de l'évolution de la situation, mais les métros continueront à circuler jusqu'à nouvel ordre, les transports en commun continueront à circuler jusqu'à nouvel ordre, et la vie du pays ne s'arrêtera pas à cause du coronavirus. Nous prenons toutes les précautions, nous mettons tout en œuvre pour que cela soit possible.
La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye avec Adrien Beck, elle redit par ailleurs qu'il n'est pas question de reporter les élections municipales. La situation sanitaire ne le justifie pas.
Et un nouveau décret a été pris après la réquisition des masques. Hier, le contrôle des prix des gels hydroalcooliques.
Et pour éviter les dérives et les prix exorbitants déjà constatés dans certains points de vente, un prix plafond sera fixé. Aujourd'hui, il en manque beaucoup dans les pharmacies. On rappelle que se laver les mains au savon, ça marche aussi tout aussi bien.
Ouais. Il y a des cas à travers la France qui sont apparus, en tout cas dans des établissements scolaires ou même dans certaines entreprises, et cela provoque nombre d'inquiétudes.
Hein. Comment se protéger quand on travaille au contact du public, dans les transports par exemple? On a vu des chauffeurs de bus exercer leur droit de retrait hier, ou au contact aussi de nombreux élèves. Interrogation notamment dans l'Oise, c'est le plus gros foyer toujours du virus. Bonsoir Nicolas Feldman.
Bonsoir.
Dans les établissements qui ne sont pas concernés par les mesures de confinement et donc qui ne sont pas fermés, certains enseignants menacent à leur tour de faire valoir leur droit de retrait.
Ah oui, car ils se situent dans cette zone grise non confinée mais qui se situe à la frontière de ce foyer de contamination. Prenez par exemple la commune de Senlis. Alors, toute proportion gardée, l'un des enseignants donne cette image. On a un peu l'impression d'être face au nuage de Tchernobyl. On nous dit qu'il s'arrête à la frontière à Senlis depuis la semaine dernière. La garderie, la crèche, la bibliothèque, les cantines ont été fermées, mais les écoles restent ouvertes contre l'avis même de Madame la maire. Écoutez, parce
Je comprends qu'il y ait des critères pour déterminer des zones cluster, mais étant donné que Et un arrêté du préfet datant du 29 février prévoit d'interdire tout rassemblement. Il aurait été logique, de mon point de vue, que les établissements scolaires soient fermés dans le département.
Oui, parce qu'à Senlis, ce qui fait craindre, c'est cette porosité, ce va-et-vient des habitants entre ces foyers de contamination et celles juste à côté. Les enseignants de deux collèges, par exemple, ont multiplié les mises en garde. Ils veulent faire pression pour que le rectorat prenne des mesures. Ils soulignent, par exemple, le manque de solutions hydroalcooliques dans leur établissement, alors qu'ils sont plus exposés qu'ailleurs. Dans l'absence de réponse, ils pourraient demander la fermeture de l'établissement pour protéger les enfants.
Nicolas Feldman, merci.
Le musée du Louvre, quant à lui, a pu rouvrir aujourd'hui. Les salariés demandaient des mesures de protection. Ils ont été rassurés. Écoutez d'ailleurs Christian Galani de la CGT Culture.
Nous avons obtenu que des solutions hydroalcooliques soient distribuées à chacun, à chaque membre du personnel. À cela s'ajoute le fait que les personnels sont aujourd'hui autorisés à mener des contrôles peut-être un peu plus distants, à ne plus utiliser par exemple des espèces lorsqu'on travaille en caisse, pour précisément éviter la propagation du virus. S'agissant du convoiement des œuvres, les personnels qui participaient à ces manœuvres, il va de soi qu'il n'est pas question de les envoyer sur des zones à risque, et s'il doit y avoir transit, elles ne doivent pas s'y arrêter. Alors il n'est pas exclu que les agents du Louvre exercent à nouveau leur droit de retrait. En fonction de l'évolution de la maladie, nous serons amenés à mesurer au jour le jour si ce danger persiste, et c'est à cette occasion qu'individuellement chacun sera amené à exercer son droit de retrait.
Un propos recueilli par Diane Chenouda pour Europe 1. Au niveau international à présent, des mesures parfois spectaculaires sont annoncées. Israël par exemple se barricade et interdit désormais l'entrée aux Français qui ne sont pas résident dans le pays. L'Italie envisage de fermer toutes les écoles et universités jusqu'à la mi-mars. La décision doit être annoncée, prise en tout cas, actée, tranchée dans les heures qui viennent. L'Arabie Saoudite suspend temporairement les pèlerinages musulmans dans les deux villes saintes de Médine et La Mecque. Et puis ce soir, les ministres des Finances européens sont réunis à Bruxelles. Ils envisagent des mesures budgétaires pour faire face aux conséquences économiques du virus. Et puis parce qu'il faut aussi relativiser, je vous donne ce soir les derniers chiffres de l'épidémie de grippe. 744 cas graves depuis le début de l'hiver, 72 décès, dont 10 enfants. On en est très très loin, évidemment, sur cette épidémie de coronavirus.
Et on en reparle d'ailleurs avec les grandes voix hein, tout à l'heure pour voir s'il n'y a pas deux poids, deux mesures dans ce dossier.
Il est 18h06, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
C'est l'autre image de cette journée, la fin de l'ère Balkany à Levallois, condamnation confirmée en appel pour fraude fiscale.
Isabelle et Patrick Balkany, tous les deux condamnés à 3 ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt, donc ils devraient obtenir un aménagement de peine et 10 ans d'inéligibilité. Avec là un effet immédiat, ça veut dire que le préfet peut constater leur démission d'office de la mairie de Levallois avant même les élections municipales. Et puis à Paris, l'adjoint d'Anne Hidalgo à la culture, Christophe Girard, a été entendu aujourd'hui comme témoin dans l'affaire Gabriel Matzneff, l'écrivain accusé de viol sur mineur. Les enquêteurs s'intéressent aux liens financiers entre les deux hommes dans les années 80. Christophe Girard était alors secrétaire général chez Yves Saint-Laurent.
C'est l'entreprise qui incarne un certain nouveau monde, hein. Uber, son modèle est ce soir remis en question par une décision de justice. Rien que ça, la Cour de cassation requalifie le lien avec les chauffeurs.
Aujourd'hui, ces chauffeurs sont indépendants, mais la plus haute juridiction française estime qu'ils devraient être salariés. Bonsoir Aurélien Fleurot.
Bonsoir.
C'est une première hein, en France. Elle a donné raison à un chauffeur, cette Cour de cassation.
Oui, un chauffeur qui avait cessé sa collaboration avec Uber il y a 3 ans et qui avait demandé au prud'homme de requalifier la nature de la relation contractuelle entre lui et la plateforme. Le pourvoi formulé par Uber a été rejeté et c'est donc le début de nombreuses autres procédures, selon Saya Baroun, secrétaire général du syndicat des chauffeurs privés VTC.
L'objectif d'ici la fin d'année, c'est d'avoir 1 millier de dossiers balancés au prud'homme contre la plateforme. Elle doit payer finalement ses années de fraude, en fait. Pendant des années, vous avez usurpé la place des entrepreneurs et des patrons, puisque c'est ce que nous sommes, des indépendants, des entrepreneurs. Et maintenant, il va falloir répondre à cette action, quoi.
Et la prochaine étape pour le chauffeur concerné par la décision de la Cour de cassation sera d'aller au prud'homme pour négocier l'indemnité qu'Uber devra lui verser. Mais pour la plateforme, qui revendique près de 30 000 chauffeurs actifs en France, ce type de procédure doit rester minoritaire. Steve Salom, directeur général d'Uber France.
On ne pense pas du tout qu'on est dans une situation où on va avoir des vagues de chauffeurs à demander à requalifier leur contrat. Il s'agit d'une demande, d'un cas particulier. Aujourd'hui, la vaste majorité des chauffeurs choisissent l'indépendance, choisissent la flexibilité et le fait de pouvoir gagner de l'argent en effectuant un travail qui est de transporter une personne d'un point A à un point B.
Un point de vue que ne partagent pas les avocats du chauffeur concerné par la décision de cet après-midi. Selon eux, c'est vraiment un point de départ et cela va concerner toutes les plateformes qui s'inspirent du modèle Uber. Un modèle donc fragilisé car il ne repose absolument pas sur le salariat de ses chauffeurs.
Voilà, retour en arrière impossible sur cette ubérisation généralisée. Aurélien Fleurot du service économie d'Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Ah, on le disait, fini, il a lancé la remontada, ça se passe outre-Atlantique. Joe Biden, grand vainqueur du Super Tuesday hier aux États-Unis. Énorme surprise, le décryptage de Xavier Yvon à New York, c'est à suivre.
Et puis la nouvelle sortie de Greta Thunberg qui étrille la Commission européenne qu'il avait pourtant invitée aujourd'hui à Bruxelles.
Deux heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
On file aux États-Unis, hein, Sébastien, parce qu'on y voit plus clair ce soir dans la campagne des primaires démocrates.
Hein. La grosse surprise, hein, c'est la victoire de Joe Biden dans 9 États sur les 14 qui votaient hier pour désigner le futur adversaire de Donald Trump. Biden rejoint ce soir par Michael Bloomberg. Le milliardaire abandonne, pari raté. Bonsoir Xavier Yvon.
Bonsoir.
On s'oriente donc vers un duel entre Bernie Sanders d'un côté et Joe Biden de l'autre, hein, un revenant, hein, l'ancien vice-président d'Obama, qu'on disait en très mauvaise posture il y a encore quelques jours.
Ah oui, c'est une résurrection pour Joe Biden, il n'y a pas d'autre mot. Il fait jeu égal avec Bernie Sanders, peut-être même mieux, mais le décompte n'est pas totalement terminé, notamment en Californie. Alors comment expliquer un tel comeback avec un épouvantail? Donald Trump, le président, obsède les électeurs démocrates et hier, ils ont voté avec la trouille au ventre, la peur de le voir réélu. Et ça a profité en dernière minute à Joe Biden. Depuis le début, c'est son argument principal. Je suis le mieux armé pour battre Trump. Sauf que l'ancien vice-président faisait jusqu'à la semaine dernière une très mauvaise campagne avec des défaites dans les premiers états, des gaffes, des débats ratés, un manque criant d'argent et d'organisation. Ce qui a tout changé, c'est sa victoire samedi dernier en Caroline du Sud et les ralliements en domino de candidats centristes. La citrouille Biden s'est transformée en carrosse. Il est redevenu le choix évident pour les démocrates modérés, ceux qui jugent que Bernie Sanders est trop radical pour gagner contre Donald Trump. Ça a donc donné hier des résultats très surprenants. Joe Biden a gagné dans des états où il n'a même pas fait campagne, même pas en pub à la télévision.
Xavier Yvon, ouais. Correspondant d'Europe 1 en direct à New York. C'est passionnant, il y a du suspense, on va continuer à suivre.
Oui, et on a Léa Pizarre qui vient nous rejoindre à 18h20 dans ce studio, donc dans moins de 10 minutes maintenant. Elle est docteure en sciences politiques, ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche. Elle nous livrera sa lecture de ce début de campagne.
De nouveau heure à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Ankara accuse les policiers grecs d'avoir tiré à balles réelles sur les réfugiés qui tentaient de passer. Accusation vivement démentie par Athènes. Nous serons sur place avec notre envoyé spécial à 19h. Les ministres de l'intérieur européen sont réunis ce soir. La France va envoyer sur place des gardes-frontières.
Et puis Bruxelles, où la Commission européenne a présenté sa loi climat avec une invitée de marque, Greta Thunberg.
Considération tout à fait inhabituelle. La jeune militante suédoise a participé à la réunion des commissaires ce matin. Bonsoir Isabelle Horry.
Bonsoir Sébastien.
On vous retrouve à Bruxelles. Alors elle a été invitée mais pas vraiment convaincue. Greta Thunberg, elle n'a pas été tendre à la sortie.
Disons qu'elle a été fidèle à elle-même. Quelle image d'ailleurs, à la mi-journée, quasiment à la même minute, vous aviez d'un côté la présidente de la Commission qui expliquait devant la presse que la loi européenne pour le climat serait le compas de l'Union pour les 30 prochaines années. Cette loi grave dans le marbre, hein, l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et puis de l'autre côté, vous aviez en stéréo Greta Thunberg qui, devant les députés européens au même moment, étrillait le texte.
Cette loi climat est une capitulation, car la nature ne négocie pas. Vous ne pouvez pas conclure un accord avec la physique. Nous ne vous laisserons pas capituler alors que notre futur est en jeu.
La jeune activiste a tenu un discours tout aussi franc dans le huis clos de la réunion des commissaires ce matin. Frans Timmermans est chargé du climat.
J'ai essayé de lui expliquer que nous avions une approche différente, que nous visions la neutralité carbone en 2050 et que nous étions plus optimistes qu'elle à propos de l'émergence de nouvelles technologies qui pourront nous aider à atteindre nos objectifs.
La communication positive de la Commission a donc été éclipsée, mais peu rancunier, le vice-président Timmermans souligne que si l'Europe a une loi climat aujourd'hui, c'est quand même d'abord parce qu'il y a eu la mobilisation de Greta Thunberg et des jeunes du monde entier.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Et on en reparle à 19h20 avec Didier et François. Et puis, on est avant la réunion de la Convention citoyenne sur le climat qui se tiendra en France ce week-end.
Cette information dans les transports, un gros souci électrique en Ile-de-France sur la ligne B du RER qui relie Paris à l'aéroport de Roissy. Trafic totalement interrompu depuis ce matin. Pas de retour à la normale avant demain. Des bus de substitution ont été mis en place et aussi une navette TGV.
Et puis, sur les grands écrans, il faudra encore attendre pour voir James Bond, alors.
Ouais, la sortie du prochain James Bond était prévue au mois d'avril. Elle est repoussée au mois de novembre, conséquence de l'épidémie de coronavirus. Probablement que les distributeurs et les producteurs ont peur que les gens ne se précipitent pas dans les salles compte tenu des consignes d'éviter les lieux confinés. Mourir peut attendre. James Bond aussi, visiblement.
Voilà, James Bond, nouvelle victime du coronavirus, en quelque sorte. Hein. Bon, mais il a toujours de la ressource. Et puis vous aussi, Sébastien, donc vous revenez à 18h30 dans ce studio. Anissa, du côté du temps, c'est très agité demain.
Oui, très agité, effectivement, avec d'abord sur le nord-ouest des pluies soutenues demain matin, Nathalie. Et rapidement, ces pluies vont envahir les trois quarts nord du pays. Il n'y a finalement que sur le littoral méditerranéen que la journée va commencer avec un ciel gris et quelques gouttes. Mais rassurez-vous, dans l'après-midi, au fil des heures, les nuages vont envahir toute la France, les pluies deviendront beaucoup plus intenses et il pleut partout, même sur la Corse demain. Dans l'après-midi, donc sur le massif central, les Pyrénées et les Alpes, en plus de la pluie, nous aurons des chutes de neige et du coup, neige plus pluie, ça donne un risque d'avalanche très important sur les Alpes. Le vent d'ouest se renforce demain après-midi. Il souffle sur toute la France sans exception. Il y aura un petit peu moins de vent sur l'extrême nord, mais partout ailleurs, dans les terres, sur les côtes, du vent d'ouest, sur les côtes à plus de 100 km/h et en moyenne 80-90 km/h dans les terres. Demain matin, 5 à 9 au bord de la Méditerranée pour les températures, 2 à 5 sur le reste de la France. Dans l'après-midi, 8 à Dunkerque, 10 à Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Clermont-Ferrand.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec dans un instant Nathalie Lévy, votre invitée.
Eh oui, une invitée franco-américaine, Léa Pizarre, ancienne conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche, docteur en sciences politiques. De quoi va-t-on parler avec elle ? Eh bien de Joe Biden, ce conquistador en quelque sorte, une résurrection avec sa victoire lors de ce Super Tuesday la nuit dernière. Alors peut-il battre Donald Trump ? Sera-t-il déjà, pour commencer, le candidat des démocrates ? On en parle avec elle.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy. C'était hier aux États-Unis le Super Tuesday. Joe Biden est désormais le grand favori de ces primaires démocrates. Alors peut-il battre Donald Trump en novembre prochain ? Nathalie, vous recevez ce soir Léa Pizarre. Elle a été la conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche.
Et oui, elle est rare à Paris. On est très heureux que vous soyez installée quelques minutes dans notre studio. Bonsoir Léa Pizarre.
Bonsoir.
Vous êtes également docteur en sciences politiques, bien sûr. Il n'aurait pas pu rêver meilleur lendemain de Super Tuesday remporté. Joe Biden, l'ancien maire de New York, le milliardaire Michael Bloomberg se retire dans la foulée de la primaire démocrate. Il lui annonce son soutien. Bon, ça y est, c'est un boulevard.
C'est un début de boulevard. On a surtout eu 4 coups de théâtre en 48 heures, ce qui est quand même pas mal. D'abord, il a gagné la Caroline du Sud. J'y croyais, mes amis y croyaient, mais le reste du monde n'y croyait pas beaucoup. Ensuite, deux de ses concurrents centristes principaux, Buttigieg et Klobuchar, se sont retirés. Puis, il a fait un carton hier avec le Super Tuesday. Et là, Bloomberg vient de se retirer. Ouais. Donc, ça commence à prendre les apparences d'un boulevard.
Beaucoup de planètes alignées, c'est ce qu'on dit. Voilà. On parle même de résurrection. C'est ce que nous disait Xavier Yvon, qui est notre correspondant aux États-Unis. Parce que c'est vrai qu'on l'avait, pour ainsi dire, enterré, Joe Biden, ce début de campagne. C'était laborieux. Très laborieux.
Je suis la dernière à vouloir critiquer les médias. Surtout aux États-Unis, parce que je considère qu'ils ont une voix très, très importante actuellement. Mais ils n'ont pas été très sympathiques avec lui et ils ont effectivement voulu l'enterrer avant qu'il ne puisse vraiment se présenter aux urnes.
Mais Léa Pizarre, pardonnez-moi, il n'a pas été très glorieux en débat, en meeting. C'est quand même... D'ailleurs, il a un surnom. Il est plutôt moqué d'ailleurs pour ça par Donald Trump, dont on sait sa capacité à être taquin et voire plus encore. Il le moque sur son côté très endormi. Il ne fait pas des prouesses, Joe Biden.
Ah, il est quand même... vous verrez, il sera fort en débat. Je ne le trouve pas du tout... Endormi. On l'accusait d'être un peu âgé, mais là, ce problème ne se pose plus puisque regardez qui reste en course.
Bernie Sanders.
Voilà. Et Donald Trump.
Et Donald Trump. Donc 77 ans au compteur pour Joe Biden et on est effectivement dans la même tranche pour ces deux adversaires. Qu'est-ce qui peut se passer quand même ? Parce que Léa Pizarre, Bernie Sanders, il en a encore sous le coude. L'arithmétique, ça reste Bernie Sanders. C'est lui qui a le plus d'argent, c'est lui qui a le plus de délégués, le plus d'organisation sur le terrain et peut-être demain Elizabeth Warren ? Alors, je précise, pardonnez-moi, c'est l'élu du Massachusetts qui est arrivé troisième dans son propre État hier.
Alors, Elizabeth Warren, le camp Biden, espère qu'elle restera encore en course parce qu'elle prend quand même du vent à M. Sanders. Il y a eu ces dernières 12 ou 24 heures un changement tectonique. Les concurrents centristes principaux se sont retirés. Leurs voix vont forcément, la majorité de leurs voix, se reportera sur Biden. L'argent va commencer à couler maintenant. J'imagine que Bloomberg le soutiendra.
Normalement.
Et les soutiens des autres viendront vers lui. Et maintenant qu'il a l'apparence d'un gagnant. Ce n'est pas encore gagné. Mais je pense que les électeurs ont aussi fait un choix. Il y a une nouvelle maturité au sein de l'électorat américain. Là, le sujet, c'est de gagner et de battre Trump. Alors, ceux qui n'étaient pas forcément pour lui sont peut-être prêts à mettre leurs nuances idéologiques de côté pour choisir le cheval qui peut vraiment battre Trump.
Donald Trump a-t-il peur de Joe Biden ? Je vous pose la question parce que effectivement, il le critique assidûment et presque, il est presque en train, j'allais dire, d'encenser Bernie Sanders.
Donald Trump a très peur de Joe Biden. Toute l'histoire sur l'Ukraine a mené à son impeachment, est due à sa peur de Joe Biden.
Il avait demandé d'enquêter sur l'ancien vice-président et sur son fils.
Et sur son fils pour essayer de lui nuire. Ça n'a pas marché. Donc l'autre avantage qu'a un candidat Biden, c'est son expérience et c'est aussi le fait qu'on a déjà tout dit à son sujet. Là, il n'y aura pas de surprise. Il a quand même survécu. Donc, à mon avis, sur ce point-là, il tiendra bien la route.
Quelle est sa planche de salut, si je puis dire, aujourd'hui à Joe Biden ? Il répète à l'envi qu'il est le meilleur ami de Barack Obama. Ils vont être sur scène très prochainement ensemble, sans doute. Sa popularité auprès de la communauté afro-américaine, c'est ce qui peut faire la différence ?
Sa popularité auprès de la communauté afro-américaine a fait la première différence en Caroline du Sud. Elle l'a aidé hier dans le Super Tuesday, mais il a aussi gagné la plus grande surprise. C'est le score qu'il a fait dans le Midwest, dans des États majoritairement blancs. On avait cherché à l'enterrer après l'Iowa, mais bon, c'était pas son terrain de prédilection. Mais il a très très bien réussi et je pense qu'il va récolter de plus en plus de soutien de toutes parts.
Mais Léa Pizarre, bien entendu, j'entends dans votre voix et dans vos propos le soutien et la croyance que vous avez dans Joe Biden, mais quand même, là où le bas blesse, c'est peut-être son programme. Sa personne est appréciée. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de contestation, mais ses propositions, elles sont peut-être un peu trop modérées à ce stade, non ? Il souhaite conserver le système de santé actuel, il refuse de s'opposer à la fracturation hydraulique, il ne se battra pas pour la gratuité des études supérieures. C'est le statu quo, non, tout ça ?
Ce n'est absolument pas le statu quo. Vous avez vu un peu à quoi ressemble Donald Trump. Ce qu'on veut, c'est peut-être un retour à l'ancien statu quo. Pour moi, les élections se gagnent généralement au centre. C'est mathématique. Joe Biden a une envergure qui lui permet de prendre quand même des votes à gauche. Il peut parler à un électorat populaire. Ses racines à lui-même le sont. Et il peut aussi parler à un électorat centriste et à l'aile républicaine qui ne peut pas voter pour Trump. Donc justement, je pense que mathématiquement, c'est celui qui est le plus en mesure de gagner.
Alors, je disais que souvent Donald Trump l'a moqué en le traitant notamment de Joe l'endormi. Il est néanmoins l'un des candidats les plus célèbres et les plus appréciés de cette campagne. Tous les électeurs interrogés connaissent son nom. 66% d'entre eux en ont une opinion favorable. Ça peut faire la différence aussi face à Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est un showman. Il a fait de la télé pendant combien de temps ? Une quinzaine d'années. Joe Biden, en face, il peut se révéler en télévision.
Ah oui, je pense. C'est quelqu'un de très charismatique, vous savez. Il a ce problème qui est qu'il bégayait avant. Donc parfois, quand il est très fatigué, ça lui nuit un peu à l'écran. Mais il sera à la fois, je pense, charismatique, mais surtout, il connaît les dossiers de fond. Il a été vice-président et pas n'importe quel vice-président. Trump aime coller les sobriquets aux gens, donc il a choisi celui-là. Mais je pense que Biden pourra vraiment lui... Que montrer qu'il sait débattre.
À quoi faut-il s'attendre ? Parce que vous nous dites finalement, comme il y a eu cette chasse aux sorcières de la part de Donald Trump et ses équipes quand ils ont enquêté sur Joe Biden et sur son fils, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme coup bas ? Il y a toujours des coups bas dans une campagne et de surcroît aux États-Unis en face de Donald Trump. Que peut-on imaginer pour la suite de cette campagne si on imagine donc Joe Biden sortir de cette primaire démocrate en face donc de Donald Trump ?
Je pense que même un très bon cinéaste n'est pas capable d'imaginer les coups bas dont serait capable Donald Trump. On l'a déjà vu avec l'histoire de l'Ukraine. Ça ne va pas être du gâteau pour Joe Biden. Il doit d'abord affronter Sanders et en émerger vainqueur, ce qui n'est pas encore donné.
C'est vrai.
C'est possible, mais ce n'est absolument pas donné. Et ensuite, Trump fera absolument tout, d'une part face à Biden. Et ensuite, on n'est pas à l'abri de toutes sortes de folies de la part de Trump qui pourrait faire on ne sait pas quoi pour changer de sujet et prendre l'attention de l'électorat.
Aujourd'hui, quand vous prenez la température aux États-Unis et que vous voyez les médias, vous voyez la population, vous voyez bien qu'il se passe quelque chose, clairement, que tout ça montre que Biden peut empêcher Sanders, plus à gauche, d'être désigné candidat du parti. Il y a vraiment une émulation.
Il n'y a pas juste une émulation, il y a une formule mathématique. Celui qui émerge vainqueur du Super Tuesday est généralement difficile à rattraper, mais surtout, je pense que Sanders a atteint son pic. Il n'a plus tellement de chemin pour élargir sa base.
Ah oui.
Sauf s'il change sa rhétorique et qu'il dilue son message, il lui reste plus beaucoup de monde à conquérir. D'autant plus qu'en Californie, il y a ce qu'on appelle le early voting, donc des gens qui pouvaient voter à l'avance. Avant que Biden ne reprenne du poil de la bête. Et mes amis à Washington me disent que s'il n'y avait pas eu cela, Biden aurait remporté
la Californie. Merci beaucoup Léa Pizard d'être venue nous en parler ce soir. Docteur en sciences politiques, ex-conseillère de Bill Clinton à la Maison Blanche. Fascinante cette campagne évidemment qu'on suivra encore, je l'espère, avec vous. Merci.
Merci.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. Le débat des grandes voix. On va retourner quelques instants aux États-Unis avec ces grandes voix qui sont, elles aussi, passionnées par ce qui se joue outre-Atlantique. Et puis le coronavirus, hein. On en reparle ce soir aussi.
Vos questions, vos réactions aux grandes voix, c'est au 39-21. Dès maintenant, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Et cette décision de l'Italie qui ferme toutes ses écoles et ses universités pour 10 jours jusqu'au 15 mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Décision confirmée ce soir. Le pays a comptabilisé plus de 100 morts depuis le début de la crise. En France, le gouvernement juge peu probable que la France puisse échapper au stade épidémique. Pour autant, la vie ne s'arrêtera pas, a précisé la porte-parole à la sortie d'un nouveau conseil de défense. Pas question notamment de repousser les élections municipales. Des conséquences dans le monde du sport. Deux équipes cyclistes sont toujours en quarantaine aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, notamment l'équipe Cofidis jusqu'au 14 mars. Et dans le monde du cinéma, report de la sortie du prochain James Bond, No Time to Die, du mois d'avril au mois de novembre prochain. Le couple Balkany renonce à se pourvoir en cassation. Isabelle et Patrick Balkany condamnés en appel pour fraude fiscale à 3 ans de prison mais sans mandat de dépôt et à 10 ans d'inéligibilité. Aux États-Unis, Donald Trump salue, je cite, l'incroyable comeback de Joe Biden. L'ancien vice-président d'Obama, victorieux dans 9 États. Désormais, la bataille des primaires démocrates se résume à un duel contre Bernie Sanders. Et puis, première demi-finale de la Coupe de France de foot ce soir, Lyon-PSG. Coup d'envoi 21h10. On ira au Groupama Stadium tout à l'heure dans le journal de 19h.
Merci beaucoup Sébastien. À tout à l'heure, Anissa, de la pluie demain.
De la pluie, encore de la pluie et pour tout le monde. Voilà comment on peut résumer la journée de demain. Il va vous falloir parapluie, bottes et cirés sur l'ensemble de la France. Il n'y a vraiment que sur le sud, le littoral méditerranéen, où nous aurons un rayon de soleil. Mais le matin et puis dans l'après-midi, c'est vraiment des pluies soutenues pour l'ensemble de la France avec le vent d'ouest qui se renforce et qui va souffler même dans les terres. Demain, avec une moyenne de 80 km/h, ça va souffler fort, soyez prudents. Sur les côtes, plus de 100 km/h. Les températures, 5 à 9 degrés au bord de la Méditerranée pour le matin et 2 à 5 degrés sur le reste de la France. Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec, comme chaque jour jusqu'à 19h, le débat des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Bienvenue à vous. On va se reparler de ces masques, de ces gels, de ce risque de pérennité du coronavirus, donc dans un petit instant. Pénurie, hein, pardonnez-moi. Mais d'abord, je voudrais filer outre-Atlantique parce qu'il s'est passé des choses cette nuit et vous connaissez parfaitement ça, notamment Gérard Carrérou. Joe Biden, la remontada, la résurrection. J'avais Léa Pizard il y a un instant dans ce studio. Alors, Léa Pizard, clairement, on a compris hein, qu'elle était dans une vraie satisfaction. Bien sûr, il se passe des choses très nettes là. Et pour Joe Biden, il y a de quoi sourire.
Oui, je crois que le mot résurrection est juste parce qu'il était effectivement mort comme candidat. D'ailleurs, il n'est pas en bonne santé, mais il a eu des accidents cardiaques très graves.
Trump l'appelle Sleepy Joe.
Mais il était mort politiquement, comme on dit. Comme quoi, d'ailleurs, on n'est jamais mort politiquement tant qu'on n'est pas vraiment. Donc, il était. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait. Il était responsable de ça. Il avait commencé très mal une campagne. Il était assez nul dans les débats, etc. Donc il perdait tout ce qu'il voulait. Et puis, il y a eu. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas tellement lui qui a été formidable. puisqu'il a même gagné dans des États où il n'est même pas mis son nez, même pas fait campagne. Et il n'avait pas un sou pour faire sa campagne. Ce qui s'est passé, c'est un phénomène d'électeurs. Les électeurs démocrates, ils n'ont qu'un souci. Moi, j'en connais beaucoup, parce que je vais souvent là-bas. Les électeurs démocrates, ils veulent se débarrasser de Trump. Et ils ont vu que Bernie Sanders, peu à peu, grignotait et qu'il allait probablement être le candidat, puisqu'il était le super favori. Et ils ont dit, c'est pas possible. Et en 48 heures, et tous les journalistes américains, j'ai écouté des tables rondes toute la journée, les journalistes américains qui avaient enterré effectivement Joe, ont dit, en 48 heures, il y a eu un basculement des électeurs. Ils ont fait ce qu'on appelle en France un vote utile. Ils se sont dit, celui-là, c'est le meilleur, enfin, c'est le moins mauvais pour battre éventuellement Trump. Car Sanders, socialiste, qui veut instaurer en Amérique un programme à la française ou à la danoise, ou avec l'impôt sur la fortune, avec un système de santé qui coûtera des milliards de dollars, etc. Sanders, il n'a aucune chance d'être élu. Il y a un plafond. Comme on disait pour Marine Le Pen, il y a un plafond de verre. Eh bien, il y avait pour Sanders un plafond de verre, et là, le plafond a crevé. Maintenant, c'est Biden qui a récupéré.
Alors, Charles Villeneuve et Catherine, et Charles Villeneuve, le plafond de verre, il est en train de le crever, mais tout n'est pas gagné. Hein. On ne va pas non plus s'emballer.
Non, parce qu'il semble, on n'a pas les résultats définitifs, que la Californie, qui a un nombre très important et considérable de délégués, Bernie Sanders semble l'emporter assez nettement. Et peut-être que là, ce sera quand même difficile de rattraper le nombre de délégués. Pas impossible, mais difficile. Et puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué, Gérard, et là, tu me diras si c'est le statut de vice-président d'Obama qui l'a aidé, notamment Joe Biden dans les États du Sud, où les Afro-Américains ont voté en masse pour Joe Biden, pour l'ancien vice-président d'Obama.
Permets que je te réponde, en une seconde, c'est tout à fait ça. Il a le bloc noir, mais solide, comme on dit en anglais, et ce solid bloc. Les communautés noires américaines,
c'est compréhensible, ça, comme expression.
Oui. Les communautés noires américaines font bloc autour de lui parce que c'est le souvenir et la nostalgie d'Obama.
Il est
l'héritier spirituel de la politique d'Obama vis-à-vis
de... Et ça, c'est ce qui fait trembler Donald Trump. Ça lui fait clairement défaut, Catherine.
Oui, parce que lui il n'en a pas beaucoup de noirs qui votent pour lui, ça c'est sûr.
Oui, mais cette nostalgie Obama n'avait pas joué pour... Madame Clinton, parce que Obama était le président sortant, et quand un président vient de sortir, il est toujours moins populaire. Mais aujourd'hui, dans l'électorat démocrate, on se dit que c'était le bon temps, du temps d'Obama, il parlait de manière comme ça, intelligente. Enfin, c'était l'anti-Trump. Et donc, il y a cette nostalgie profonde. Et ça profite aujourd'hui à
Bernie Sanders, le socialiste Bernie Sanders.
À Joe Biden, qui est vraiment...
Qui
lui aussi est un homme bien élevé, enfin, mais très gaffeur aussi, qui quand même, il est très, très... Quand même, un soir de sa victoire hier, il a confondu sa femme et sa soeur.
Oui.
C'est quand même énorme.
Mais est-ce qu'on peut dire...
Charles, vous permettez dans une seconde et vous prenez la main.
Oui, Nathalie.
Merci, Charles. À tout de suite.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h autour de vous ce soir. Nathalie Lévy, vous recevez Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et toutes vos réactions bien sûr en direct au 3921 ou sur Twitter hashtag Europe 1.
Et Charles Villeneuve, on a été interrompu brièvement, mais bien sûr la question outre-Atlantique à l'heure qu'il est, quand on voit cette victoire au Super Tuesday et puis le ralliement du milliardaire Michael Bloomberg à Joe Biden dans la foulée, c'est se dire, maintenant Donald Trump en face de Biden ou en face de Bernie Sanders, qui lui fait le plus peur?
Moi, je pense, plus peur. Je ne pense pas qu'il ait vraiment peur.
Façon de parler,
d'ailleurs, le dernier tweet qu'il a envoyé, il a encore surnommé Joe Biden.
Oui, Joe l'endormi.
Sleepy Joe l'endormi.
Oui, bien sûr.
Il le fait depuis des mois.
Oui,
non, mais c'est
ça.
Quand même assez incroyable, quoi. C'est dire le niveau quand même de l'échange.
C'est Donald Trump à la fois.
Oui, mais cela étant, la course n'est pas encore jouée quand même chez les démocrates. C'est-à-dire entre Bernie Sanders, qui vante les mérites de la Russie, non pas la Russie d'aujourd'hui, la Russie soviétique et Cuba. Alors, pour l'électorat moyen, quand même, américain, je ne pense pas qu'il puisse vraiment faire peur. Je pense que même Trump n'a pas la moindre crainte d'un adversaire comme Sanders. Pour Biden, c'est quand même plus difficile. Peut-être pas facile, je ne crois pas. Et moi, je pense qu'on a sous-estimé en 2016 complètement Trump et que Peut-être aujourd'hui, on est en train de le surestimer. Bah,
alors, oui. Voilà, c'est toute la question aussi, Catherine, et évidemment Gérard Carrérou, c'est qu'aujourd'hui, Donald Trump, c'est quand même, aux États-Unis une économie florissante.
Avec des petits fléchissements oui, depuis, okay. Avant le coronavirus.
Oui, mais globalement,
même,
Catherine, enfin, voilà. Bon, si on est fair play, on peut emploi, pas. Oui, voilà, oui. Si on est fair play, on peut dire que c'est quand même le plein emploi. C'est qu'aujourd'hui, il va sur tous les terrains où il est attendu pour désamorcer. Il discute avec les grands de ce monde avec qui les États-Unis ne dialoguaient pas. Il va là où il était aussi.
Oui, il ramène les soldats. Il va ramener les Américains d'Afghanistan.
Il négocie avec les talibans.
Contrairement à ce qu'on avait dit au début, il a déclenché. On disait celui-là, il va faire la guerre partout.
Il a fait exactement le contraire.
Il a ramené les boys à la maison. Donc effectivement, il reste quand même. Moi, je pense qu'il est toujours, pour l'instant, il est toujours favori du match face à peu près à tous les candidats démocrates. Mais peut-être, et je pense, là, je partage assez l'avis de Charles, je pense qu'il est probablement Biden. Biden, c'est un peu le Canuet, si vous voulez, autrefois. Oui. C'est un centre.
Le Canuet en mauvaise santé, alors que le Canuet était jeune, avait 37 ans et belle dent.
Ce que je veux dire par là, c'est un homme bien élevé, sympathique, c'est old school, c'est vraiment quelqu'un. Vous le recevez chez vous, vous serez, vous trouverez formidable, il raconte des anecdotes. Alors, simplement, aujourd'hui, je dirais pas qu'il a un peu Alzheimer, mais il a de temps en temps un petit peu. Il a quand même dit dans un des États où il a cru qu'il était au Vermont, il était dans le New Hampshire. Il se trompe un peu, quoi. Il a un peu ce côté. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres gaffes pendant la campagne.
Je voulais souligner que maintenant, en Amérique, Bloomberg a démontré qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour gagner. Non seulement il n'était pas bon, mais là, il a beau avoir mis 700 millions, je crois qu'il récoltait 4 délégués, ce qui n'est pas beaucoup. Ça coûte cher, le délégué.
Mais en même temps, cet argent, probablement, une partie en tout cas de cet argent, va aller alimenter les caisses qui étaient vides. Les caisses de Joe étaient vides.
Il a fait cette campagne sans aucun budget, sans faire de pub.
C'est un sursaut. Je dépense
de l'argent pour faire battre Trump, mais aussi pour faire battre Sanders. C'est son ennemi. Donc il va soutenir Bernie.
Il va le soutenir. Il reste aussi une inconnue, c'est de savoir ce que fera la dernière autre candidate, Elizabeth Warren.
Qui a été battue chez elle dans le Massachusetts.
C'est lamentable pour une sénatrice du Massachusetts qui a été battue dans son propre
État.
Elle a quand même fait 12-13%.
Gérard.
Et où vont aller ces 12-13%?
Mais Gérard, la presse européenne l'a montée en épingle de manière exorbitante, extraordinaire.
Parce que c'était la seule femme qui avait émergé, en tout cas la principale femme qui avait émergé.
Mais sur le plan de la politique étrangère, Biden ne fera pas autre chose qu'Obama avait fait.
Le premier s'était retiré et n'avait pas voulu s'engager, notamment en Syrie, au moment de l'utilisation des armes chimiques.
C'est peut-être ça là où le bas blesse, pardonnez-moi, un petit tour de table rapide sur effectivement ce que peut faire Biden. On est quand même dans le conservatisme, dans le statu quo absolu, sur le système de santé, rien sur la gratuité des études supérieures. Il n'envisage pas de taxer le patrimoine des Américains les plus riches. Faut pas s'attendre avec Biden à ce qu'il y ait un...
Non, mais c'est une politique de gauche, si on peut considérer la démocrate comme la gauche américaine. Mais c'est une politique de gauche extrêmement molle, extrêmement soft.
Jovial démocrate.
Non, c'est pas un partisan de Thomas Piketty, si vous voulez. Et les acheteurs, justement, vous parliez de... Nous parlions de ça tout à l'heure au moment de la pause. Il faut savoir que les jeunes branchés de gauche des universités américaines, ce sont les principaux supporters de Bernie Sanders.
Bien sûr.
Eh bien, c'est fascinant de vous écouter les grandes voix quand il s'agit des États-Unis aussi. C'est très enlevé ce débat. On se retrouve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h. Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et les grandes voix jusqu'à 19h qui débattent même pendant les pauses. Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou ce soir. Ils vous écoutent également au 39-21 en direct pour réagir.
Eh oui, bien sûr. Alors, on est ensemble pour se reparler aussi ce soir du coronavirus parce qu'on entend Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, la vie ne s'arrêtera pas, mais il ne faut pas, croire que ça va s'arrêter là. Le stade 3, on flirte avec. Clairement, voilà ce qu'on nous dit, les politiques nous disent. Et dans le même temps, les médecins nous disent mais les symptômes, finalement, c'est à peine ceux d'une grosse grippe. Alors Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou.
Moi, je voudrais rappeler que la grippe saisonnière qui a lieu chaque année en France et qui affecte entre 2 et 8 millions de personnes, Et c'est un virus et ça se transmet par les voies aériennes comme le coronavirus. Et il y a, selon les années, entre 6 000 et 10 000 décès. Aujourd'hui, combien de coronavirus en France? Combien affectés? 257 et 4 décès pour l'instant.
Bon. Voilà. Dans quand on a 72 décès pour la grippe en ce moment, dont 10 enfants.
Dans le monde, 5 à 10% des adultes sont contaminés chaque année. Et en Europe aujourd'hui, le coronavirus touche 3 300 personnes dans les 28 pays européens.
Ça se pose là.
Donc, ça,
bah, donc, d'une certaine manière.
Ça se pose mais alors, là, alors, mais je veux dire, alors que la grippe a touché entre 5 et 10...
Bien oui, sûr. Mais Catherine, mais alors, la grippe, on la connaît. C'est un phénomène, on est habitué, d'ailleurs on se fait vacciner contre la grippe même, régulièrement, chaque année. Donc on sait ce que c'est que la grippe, on n'a pas peur. On a peur de l'inconnu, sur tous les sujets, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Or là, on a l'impression, on ne peut pas nous dire qu'il y aura un vaccin, donc on a l'impression qu'on est devant quelque chose qui est un mur d'incertitude. C'est ça qui fait une sorte de...
Mais il y a quand même une petite différence. Entre
politique
grippe,
médecin, vous voyez bien la différence de discours.
Oui, non, mais entre la grippe saisonnière et cette grippe-là, qui est une grippe, comme la grippe saisonnière. Simplement, elle semble, si vous voulez, je dirais, avoir comme danger une accélération de la contagion. Cette contagion-là, d'ailleurs on le verra en France, la propagation de ce virus, s'il s'accélère, c'est à partir de là que Sylbette, la porte-parole du gouvernement, dit, d'ailleurs on tangente, on n'est pas loin du stade 3, mais on n'y est pas encore, parce que c'est vrai que cette accélération, elle n'est pas aussi rapide, si j'ose dire, qu'en Italie. Mmh. Où tout d'un coup, ça a flambé. Mais là, c'est la raison pour laquelle ça désoriente les politiques. Ouais.
Mais regardez quand même, Charles, ce médecin contaminé d'une cinquantaine d'années, qui on nous raconte, je n'ai eu aucun symptôme, j'ai eu un petit peu de fièvre une fois à 38, un peu mal à la gorge, à la tête, et puis la fièvre est passée le lendemain, le maux de gorge 3 jours après, les maux de tête 5 jours après, et je n'ai plus rien depuis 3 jours.
Ce qui veut dire que peut-être il y a beaucoup de gens qui en sont atteints du coronavirus, qui voient leur grippe coronavirus qui disparaît et qui ne sont pas, qui ne seront pas testés.
C'est même la majorité, vraisemblablement, parce que ces défenses immunitaires ont parfaitement fonctionné, si vous voulez. Mais la différence entre les médecins et les politiques, elle est essentielle. Les politiques ont des électeurs et ils sont politiquement responsables et juridiquement responsables. Le médecin a des patients. Et il ne rend de compte qu'à ses patients. Il peut rendre des comptes à la justice si le patient se retourne contre lui. C'est vrai. Mais ce qui est essentiel, c'est ça la différence. Mais ce que ne comprennent pas les gens, c'est par exemple, on prend la décision, un préfet prend la décision de fermer les marchés ouverts. Par contre, il laisse le système U, justement, ouvert, par contre, confiné, qui est dans un endroit confiné, et les gens ne comprennent pas.
Oui. C'est ça, si c'est qu'il y a un peu de poids de mesure,
Il y a eu des exemples, pas tant celui-là. Celui-là est pas tant, d'ailleurs, c'était pas un système U, c'était un carrefour. Le carrefour était à vol d'oiseau, à 50 mètres du marché, et on voyait les pauvres gars qui étaient venus depuis 6 heures du matin, qui étaient obligés de démonter.
Oui, il y a eu un reportage.
Mais on l'a vu partout. Mmh. Il a tourné en boucle sur les chaînes infos.
Le coronavirus est transmissible et que l'Italie est le pays le plus affecté, puisqu'il y a 2500 cas aujourd'hui. Absolument. Mais le gouvernement italien vient seulement aujourd'hui de donner aux Italiens les conseils de se laver les mains toutes les heures, simplement aujourd'hui, alors que le gouvernement a donné ses règles d'hygiène un peu élémentaires, qui valent d'ailleurs pour aussi bien toutes les grippes, les rhumes et autre chose.
Oui, c'est une sorte de béaba. Et l'Italie qui confirme aussi la fermeture des écoles, des universités jusqu'au 15 mars. Hein,
alors je reviens sur les politiques. La plupart de ceux avec qui j'ai dialogué sont tous marqués par l'affaire du sang contaminé,
évidemment.
Où justement, on avait retardé, si vous voulez, cette affaire-là, notamment les bons sachets de désintoxication qui pouvaient lutter contre le sang contaminé, cette contamination dangereuse. Plusieurs personnes sont mortes pour des problèmes de déficit de sécurité sociale. Ouais. Et d'ailleurs, le Premier ministre à l'époque avait failli perdre sa réputation. La justice l'a blanchi sur ce plan-là. Laurent Fabius, rappelez-vous.
Bien sûr. Un auditeur est avec nous, Yves, depuis 3. Bonsoir à vous, Yves. Bienvenue sur Europe 1.
Merci de prendre mon appel. Ouais, je voulais simplement dire que si on peut se féliciter du principe de précaution en vigueur en France, j'ai le sentiment que l'excès d'information et la transparence absolue nous conduisent tout simplement à l'anarchie. J'ai l'impression qu'un excès d'information génère naturellement de la désinformation. Je crois qu'il n'est que de consulter les réseaux sociaux aujourd'hui. On est en train d'installer une véritable psychose, une véritable paranoïa.
Donc on, les médias, c'est ce que vous dites en fait ?
Je pense qu'il y a une responsabilité des médias qui actuellement me semble faire de la surenchère. Je n'en dirai pas autant pour ma radio préférée. Mais je pense que sur les réseaux sociaux, en particulier les chaînes d'infos, il y a une surenchère sur le sujet qui crée une véritable psychose. Et je crois qu'aujourd'hui, il serait indispensable de laisser d'abord les vrais spécialistes s'exprimer et ne pas laisser surtout les politiques s'interférer comme ils le font dans le débat.
En tout cas,
parfois avec démagogie d'ailleurs.
Merci beaucoup Yves de nous avoir appelé ce soir de Troyes. En tout cas, quand on entend Yves, finalement c'est, j'allais dire, en concordance avec l'avis global des Français qui aujourd'hui se disent inquiets. Mais pas paniqué, selon un des derniers sondages là, sur cette enquête sur le coronavirus. Inquiet, mais pas paniqué, ça veut dire que finalement, on savoir raison garder, c'est aussi mais là,
et ils disent
ce qui nous
aussi,
caractérise.
Ils disent aussi que la crise est plutôt bien gérée.
Enfin, bien gérée
65%,
voilà.
Je crois.
Il y a des fantaisistes notamment dans les réseaux sociaux, courent sur la Côte d'Azur.
Toujours, non, toujours, Charles.
Le médecin que j'ai eu tout à l'heure me disait, ça fait 6 patients qui me disent, est-ce que c'est vrai que le sèche-cheveux tue le virus.
Aïe. Ah oui, bon, on va loin là.
Parce que là, il y a un développement justement sur,
Mais sur la température.
Yves a fait une très bonne remarque dont nous devons tenir compte.
Voilà, exactement. Oui. Donc savoir raison garder et savoir faire le tri. Et lavez-vous les mains quand même. Merci les grandes voix. Merci à vous.
À suivre Nathalie Lévy.
On reste ensemble dans un instant. Eh bien, on se retrouve avec un nouveau journal complet, Sébastien Krebs, avec à la une ce soir, entre autres, la réquisition des masques de protection, l'encadrement des prix des gels hydroalcooliques. Ça, c'est la nouvelle étape, la nouvelle mesure pour enrayer l'épidémie du coronavirus.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy avec la suite du programme. Nathalie.
19h10, l'interview politique d'Aurélie Herbeon, Patrick Kanner ce soir dans ce studio, président du groupe PS au Sénat. Et puis, un film à ne pas manquer, Néné Chérie, Woman, avec moi en ce studio. Les réalisateurs Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, ils signent à eux deux un documentaire poignant, Woman.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Nous avons décidé de suspendre les activités scolaires jusqu'au 15 mars.
L'Italie passe au niveau supérieur pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Le pays ferme toutes ses écoles et universités pour 10 jours.
Et puis la France n'est pas encore au stade épidémique. Le gouvernement va encadrer le prix des gels hydroalcooliques pour éviter les dérives.
Dans ce journal aussi, tension à la frontière, la Turquie qui accuse la Grèce de tirer à balles réelles sur les réfugiés. Et puis la première demi-finale de la Coupe de France de foot, c'est ce soir, Lyon-PSG.
La tendance météo, Danissa.
Parapluie pour tout le monde demain, personne ne sera épargné. Je vous donne tous les détails de cette météo très pluvieuse à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est toujours le principal foyer en Europe du coronavirus. L'Italie, qui comptabilise désormais plus de 100 morts, vient de prendre une mesure drastique. Nous sommes à Rome ce soir avec notre correspondante Blandine Hugonnet. Le pays ferme toutes ses écoles et universités pour 10 jours.
Oui, c'est confirmé. À partir de demain matin, les cours sont suspendus dans toutes les écoles et toutes les universités italiennes. Elles seront fermées jusqu'au 15 mars. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure la ministre de l'Éducation. Dans les zones les plus contaminées, dans le nord de l'Italie, les établissements scolaires sont déjà fermés depuis 10 jours. Mais cette fois-ci, cette décision radicale concerne tout le territoire. Une décision prise après un conseil des ministres et surtout après une évaluation d'un comité scientifique pour être sûr qu'une fermeture des écoles est justifiée selon l'évolution de l'épidémie ici. Cette mesure fait partie d'un nouveau décret d'urgence pour combattre le coronavirus. Il doit être signé ce soir par le président du Conseil, Giuseppe Conte, un décret qui devrait aussi prévoir la suspension de toutes les manifestations, peut-être même la fermeture des cinémas et des théâtres italiens. Et pour le sport, tous les prochains matchs de foot devraient se faire à huis clos, au moins jusqu'à la fin du mois.
Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1.
Décision spectaculaire aussi en Israël qui ferme ses portes aux Français.
Hein. Les ressortissants de plusieurs pays européens, dont la France, et qui ne sont pas résidents en Israël, ne seront plus autorisés autorisés à entrer sur le territoire, sauf s'ils prouvent qu'ils ont un lieu pour se mettre en quarantaine. Ça concerne aussi l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse.
En France, le gouvernement ne s'en cache plus. Il est peu probable que nous échappions au stade épidémique.
Ce fameux stade 3 qui n'est pas encore atteint. Mais quand bien même il le serait, la vie ne s'arrêtera pas, a redit aujourd'hui la porte-parole du gouvernement. Et après la réquisition des masques, un nouveau décret a été pris pour encadrer cette fois le prix des flacons de gel hydroalcoolique pour éviter les dérives. Des flacons, encore faut-il en trouver parce que beaucoup de pharmacies sont à court. Vous l'avez constaté à Nantes, Charles Guyard.
Alors effectivement, à Nantes, difficile, voire impossible de trouver du gel qui, jusqu'à présent, se vendait entre 2,50 et 3 euros le flacon de 75 millilitres. Un tarif raisonnable après tout, qui n'empêche pas certains clients d'approuver cet encadrement des prix, comme Marie-Christine, elle est infirmière à la retraite.
C'est tout à fait logique.
C'est pas normal que ça soit cher.
Ça coûte rien. Moi, je me lave les mains.
Le lavage des mains au savon, voilà le geste le moins coûteux, le plus simple, avec une efficacité tout aussi prouvée. Dans les pharmacies, le décret est surtout perçu comme un remède à un réflexe très humain, finalement. La pénurie crée la rareté et la rareté l'inflation. Philippe Brochard est responsable d'une officine au nord de Nantes.
Ah bah si, c'est triste, mais ça me surprend pas, parce que la nature humaine est ainsi faite, qu'il y a toujours des gens qui cherchent à profiter de la misère des autres.
Mais au-delà des éventuels vendeurs malhonnêtes, surtout sur Internet, les professionnels doivent aussi se méfier des démarcheurs, comme le raconte Valérie Charpentier, elle est pharmacienne dans le centre de Nantes.
Des commerciaux vont dans les pharmacies pour proposer des gels hydroalcooliques où le prix d'achat est déjà peut-être élevé. Ils conseillaient aux pharmaciens de faire attention aux arnaques.
Des arnaques qui commenceraient donc, vous l'avez compris, dès la commande, si celle-ci se fait dans la précipitation, sans vigilance.
Charles Guyard à Nantes pour Europe 1. On rappelle que sans gel hydroalcoolique, on peut aussi se laver les mains au savon. Ça marche très bien, c'est tout aussi efficace.
Très régulièrement, même plusieurs fois par heure. Aujourd'hui, les ministres des Finances des pays de la zone euro se sont entretenus par téléphone. Ils se disent prêts à prendre des mesures budgétaires.
En clair, assouplir les règles qui limitent les déficits pour permettre aux États de venir en aide aux entreprises affectées, des conséquences qui ont déjà une réalité. La compagnie allemande Lufthansa, par exemple, va immobiliser 150 de ses appareils, c'est quasiment un quart de ses avions, à cause de la baisse du trafic aérien. Des annulations, de nouvelles annulations d'événements annoncées ce soir. Le MIP TV, le grand salon de l'audiovisuel à Cannes, est annulé. Le festival Cannes Série également reporté en octobre.
La politique maintenant, c'est Édouard Philippe qui ouvre la porte à un possible report de l'examen de la réforme des retraites au Sénat. C'est évidemment ce que réclame la majorité de droite.
Il charge son ministre Marc Fesneau d'examiner la faisabilité d'un report de 15 jours pour attendre les conclusions de la conférence de financement. Le couple Balkany ne va pas se pourvoir en cassation. Condamnation définitive donc pour fraude fiscale de Patrick et Isabelle Balkany. 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Il devrait échapper à la détention. 10 ans d'inéligibilité. Effet immédiat, il pourrait être conduit à quitter la mairie de Levallois dès les prochains jours.
Et nous retournons ce soir à la frontière entre la Grèce et la Turquie où de nouveaux heurts se sont produits.
Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial au poste frontière. Aujourd'hui, les autorités turques ont accusé les policiers grecs d'avoir ouvert le feu à balles réelles sur les réfugiés qui tentent d'entrer en Europe, ce que la Grèce dément catégoriquement.
La seule certitude, Sébastien, sur ce qui se passe là-bas, de part et d'autre des barbelés, c'est que la Grèce et la Turquie se livrent une guerre de communication. Depuis le début de la semaine, Ankara répète chaque jour que les migrants à sa frontière se font tirer dessus par les autorités grecques, que certains en sont morts, des images circulent sur les réseaux sociaux. Réponse d'Athènes dans la foulée, la Turquie fabrique de fausses informations. Mais côté grec aussi, la situation à la frontière est instrumentalisée. Il doit y avoir une centaine de journalistes avec moi à Kastaniès, ville de 1000 habitants collée à la Turquie. Eh bien, exceptionnellement, on a tous été invités ce matin à se rapprocher des barbelés pour voir comment, et là je mets des guillemets, les policiers et les militaires défendent la frontière contre les migrants qu'ont laissé passer les Turcs. Une sortie encadrée, interdiction de trop s'approcher, de parler aux demandeurs d'asile avant de devoir faire demi-tour au premier tir de gaz lacrymogène. J'ai essayé d'y retourner plus tard dans la journée, mais une patrouille de militaires m'a sommé de rebrousser chemin. Une bataille d'image donc, très politique, entre la Grèce et l'Europe d'un côté et la Turquie de l'autre, et au milieu de laquelle se trouvent 20 000 migrants, d'après les derniers chiffres des Nations Unies.
Pierre Herbulot en Grèce, à la frontière avec la Turquie, la crise qui se joue dans la région, les tensions militaires avec la Syrie. Il en sera question demain. Le président turc Erdogan a rendez-vous à Moscou avec Vladimir Poutine.
Le football, Sébastien, ce soir, première demi-finale de la Coupe de France. Les Lyonnais et les Parisiens ne se quittent plus, pour ainsi dire.
Oui, déjà la troisième confrontation entre ces deux équipes. Julien Froment, vous êtes en direct au Groupama Stadium à Lyon. Alors, les Lyonnais ont retrouvé des couleurs après leur succès en Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Le PSG de son côté, c'est le dernier grand test avant Dortmund.
Oui, clairement, ce soir c'est un match Ligue des Champions qui attend le Paris Saint-Germain. Lyon l'a démontré il y a une semaine avec cette victoire face à un grand d'Europe, la Juventus Turin. C'est donc un test idéal à une semaine du choc contre Dortmund pour le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Alors l'équipe alignée ce soir par Thomas Tuchel devrait donner quand même quelques indications sur le 11 qui défiera justement les Allemands mercredi prochain. Une certitude en tout cas, le Brésilien Neymar qui était suspendu lors du dernier match, il fait son grand retour sur le terrain ce soir pour le plus grand bonheur de son entraîneur.
Il va jouer, c'est absolument nécessaire, c'est le plus important qu'il joue, qu'il a le rythme et qu'il est avec nous dans cette phase décisive.
Ouais, décisif, car c'est une place en finale qui se joue. Et si Lyon a tout pour déranger les Parisiens, le Paris Saint-Germain a disputé 19 demi-finales de Coupe de France avec un bilan quasi parfait, 17 qualifications pour seulement 2 éliminations. Donc Lyon est prévenu, il faudra réaliser ce soir un exploit.
Lyon-PSG, première demi-finale de la Coupe de France. Et ce soir, coup d'envoi 21h10. Merci Julien Froment.
Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve évidemment à 19h30. Et Anissa nous prévient, il faudra un parapluie demain et pour tout le monde.
Exactement Nathalie, pour tout le monde sans exception. Demain, nous serons tous logés à la même enseigne. Dès le début de journée, les trois quarts nord du pays sont concernés. Il pleut fort même sur le nord-ouest, des pluies très soutenues. Sur les Alpes, les Pyrénées et les reliefs de l'Est, il va neiger. La pluie arrive dans l'après-midi sur le massif central avec un risque toujours très important d'avalanche sur les Alpes. Et dans l'après-midi, les pluies vont se généraliser. Il pleut sur toute la France demain. Il pleut partout. Aucune région n'est épargnée. Même la Corse sera sous les nuages et sous la pluie demain. Le vent d'ouest se renforce. Au sud de la Seine, le vent souffle fort. Partout, en moyenne à 80 km/h sur les terres, plus de 110 km/h sur les côtes. Les températures demain matin, il fera frais. 2 à Strasbourg et Belfort, 4 à Aurillac, 5 à Lille, 6 pour Paris et Nîmes, 8 à Tours et Nantes, 10 pour Bordeaux. Dans l'après-midi, 8 à 12 degrés sur le nord, 16 au bord de la Méditerranée et 12 à 15 degrés partout ailleurs.
Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir avec vous Nathalie Lévy.
Avec votre interview politique Aurélie Herbemont, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Et votre invité ce soir,
Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat. La bataille des retraites va se poursuivre au palais du Luxembourg, on en parle avec lui.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec l'interview politique Nathalie Lévy.
Et avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont, dans ce studio, Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat.
Bonsoir Patrick Kanner.
Bonsoir madame.
Vous avez demandé au Premier ministre de décaler de 15 jours le début d'examen de la loi retraite au Sénat. Le Premier ministre n'a pas fermé la porte, mais il fixe un cadre, que ça ne perturbe pas l'adoption de la loi avant l'été. Ce calendrier sera tenable si vous commencez plus tard.
Pourquoi 15 jours, pour reprendre votre propos ? Parce que nous voulons connaître les conclusions de la conférence de financement.
Vos collègues députés n'ont pas pu examiner avec la conférence de financement. Donc.
Oui, donc on marche sur la tête. Notre objectif, c'est, en tant que parlementaire, représentant les intérêts des Français, c'est de pouvoir dire, mais nous voulons pouvoir débattre au Parlement, ça n'a pas été le cas à l'Assemblée, dans de bonnes conditions au Sénat, qui devient le seul lieu de contre-pouvoir, finalement, de la politique gouvernementale. Donc dans ce cadre, ce que nous demandons me paraît raisonnable. Sur une réforme, quand même, qui concerne toute la population, qui représente 14% du produit intérieur brut et qui engage l'avenir de notre pays, notamment des jeunes. Donc avoir du temps pour une telle réforme, je crois que ça mérite d'être pris en considération.
Mais vous aurez le temps pour une adoption avant l'été, ou on peut se dire que peut-être vous essayez de décaler, quitte à après faire de l'obstruction et torpiller le calendrier du gouvernement.
Le mot d'obstruction n'est pas un mot habituel au Sénat. Nous travaillons sur le fond et nous allons le faire dès que cela sera possible. Simplement, cette réforme est extrêmement importante. Elle justifie qu'on prenne du temps. On ne connaît pas la méthode de financement. On ne sait même pas d'ailleurs comment sera calculé le fameux point qui rendrait universelle la réforme. Une réforme systémique, une réforme paramétrique. Tout cela est très complexe. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a 29 ordonnances prévues dans le texte. Donc ce que nous disons en tant que sénateurs, et là sur tous les bancs du Sénat, exception faite malheureusement des sénateurs de La République En Marche, nous demandons... Ils sont très minoritaires. Laissons du temps au temps. Et quand Gérard Larcher, président du Sénat, demande 15 jours pour pouvoir examiner dans de bonnes conditions le texte, je crois que ça mérite attention. Et il est vrai que cet après-midi, un peu sous mes coups de boutoir et ceux de Bruno Retailleau, que je salue, puisque nous étions sur la même ligne
politique. Le président
politique,
du groupe LR.
Ce ne sera pas toujours le cas, à mon avis, dans le débat au Sénat. Parce que
c'est
nous
possible.
Avons quand même, nous avons quand même des solutions qui sont très différentes en la matière, mais au moins sur la forme, encore une fois, nous voulons pouvoir travailler dans la sérénité.
Et donc, vous dites au gouvernement, faites-nous confiance, on commencera plus tard, mais on finira à l'heure.
Oui, le gouvernement n'a pas toujours confiance dans le Sénat. Disons-le très simplement.
Il a peut-être
simplement.
Eu des raisons ces derniers mois de ne pas avoir toujours confiance.
Il le regrette, mais on ne peut pas avoir raison tout seul, tout le temps, contre tout le monde.
Alors, ce matin, du côté de l'Assemblée nationale, la Commission des affaires sociales a rejeté la demande de commission d'enquête parlementaire réclamée par vos collègues députés socialistes. Est-ce qu'au Sénat, cette commission pourrait voir le jour ?
Alors d'abord, c'est un nouveau coup de force qui a été fait contre, finalement, moi je le dis, la démocratie. Je ne sais pas si je peux employer le mot de déni de démocratie, mais en tout cas, demander une commission d'enquête. Parce que nous avons des craintes sur la sincérité de l'étude d'impact qui
l'étude
a été présentée au Parlement.
L'étude d'impact sur les retraites.
Exactement, sur l'étude d'impact qui engendre le texte et qui a été profondément critiquée par le Conseil d'État, qui ne peut pas être suspecté d'être de droite ou de gauche. C'est le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays. Cette étude d'impact est critiquée. Nous demandons simplement à savoir comment elle a été élaborée.
Et vous pensez pouvoir la faire au Sénat, cette commission d'enquête ?
J'ai demandé, avec nos collègues du groupe communiste au Sénat, à Gérard Larcher de bien vouloir déclencher cette commission d'enquête parce que nous estimons utile pour que finalement tout le monde soit informé de la réalité aujourd'hui de l'argumentaire du gouvernement.
Patrick Kanner, les Insoumis appellent à écraser partout les listes en marche aux municipales après l'utilisation du 49-3 sur les retraites. Est-ce que vous aussi, au Parti Socialiste, vous appelez à écraser les marcheurs aux municipales ?
Je laisse à France Insoumise les expressions habituelles, quasiment guerrières, qui sont utilisées depuis maintenant quelques temps. Ce que nous voulons, nous, c'est une sanction. Nous pensons que ces élections municipales sont les vraies premières élections, finalement, où les Français pourront dire au gouvernement
il y avait les européennes.
Ça ne va pas. C'est vrai, mais les européennes, c'est un enjeu qui dépasse le niveau national par définition. Donc là, on choisit son maire. On choisit,
il y a un enjeu local pour les municipales.
C'est un enjeu local. C'est un enjeu aussi qui va être manifestement à caractère national. Et ça, on l'a bien vu, puisque la République En Marche finalement, à pratiquer la politique du coucou dans beaucoup de cas, en mettant des candidats à droite, à gauche, au centre, finalement se cachant. Et moi, j'ai envie de dire aux candidats En Marche, mais voilà, dévoilez-vous, ce n'est pas une honte d'être dans la majorité présidentielle. Et si vous êtes sanctionné, eh bien, vous en tirez les conséquences.
Ces municipales, c'est un scrutin de survie pour le Parti Socialiste après les déconvenues extrêmement lourdes à la présidentielle et aux européennes.
C'est un scrutin qui est pour moi un juge de paix pour ce que nous représentons. Je crois aux valeurs du socialisme. Le mot de socialisme n'est pas un vain mot et ce n'est pas une injure. Et nous avons fait beaucoup progresser ce pays dans cette 5e République grâce à nos différents gouvernements. Au travers de cela, nous avons été sanctionnés deux fois de suite aux élections présidentielles et aux élections européennes. 6%, je ne me résous pas à devenir un groupuscule politique dans la vie politique française. Je crois que ce que nous représentons en termes de valeurs, en termes de lutte pour les égalités sociales, en termes de lutte pour les libertés, tout cela représente un vrai combat qui est utile aujourd'hui pour la France. Le peuple de gauche a besoin d'un parti socialiste fort. Et j'espère que les élections municipales permettront, au travers notamment du bilan des sortants, et nous avons beaucoup de sortants dans les villes de plus de 1000 et 10 000 habitants, de pouvoir retrouver un peu de couleur.
Est-ce que vous êtes inquiet pour Anne Hidalgo à Paris quand vous voyez les sondages qui placent ces derniers jours, ces dernières semaines, Rachida Dati en tête ?
Ce sera un combat difficile. Je ne vous cache pas que je n'imaginais pas à 2 semaines de l'élection Rachida Dati aussi haute. Mais ça incite et ça oblige Anne Hidalgo à aller encore plus loin, plus fort dans sa campagne et surtout de pouvoir prévoir les alliances qui feront qu'elle sortira maire à la fin de cette épreuve, qui est une épreuve politique, démocratique, importante. En tout cas, moi, je fais confiance à Anne Hidalgo, qui est une maire courage, qui a beaucoup changé sa ville. J'espère que son travail sera reconnu par les Parisiens.
Patrick Kanner, l'épidémie de coronavirus touche la France depuis quelques jours de manière plus intense. Les matchs de foot de Ligue 1, je m'adresse à l'ancien ministre, sont maintenus. Est-ce que pour vous, c'est raisonnable avec les différentes mesures de confinement qu'on peut avoir ici ou là ?
C'est raisonnable et je pense que c'est même souhaitable. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un stade 2, c'est un stade préoccupant, on ne va pas se raconter l'histoire, mais on ne peut pas arrêter le pays. Vous savez, Moi, j'ai connu une épreuve peut-être encore plus difficile, celle des attentats. Et quand j'étais ministre, il a fallu statuer sur le fait de maintenir ou pas l'euro 2016. Et nous l'avons fait, et je crois que nous avons bien fait. Donc dans ce cadre-là, je fais confiance au gouvernement, et là je le dis très simplement, pour que les mesures de précaution, de prévention soient le plus largement utilisées, et qu'à ce stade-là, je pense que nos stades de foot doivent être préservés et que les manifestations puissent se réaliser. Après, la décision appartient au l'exécutif. En tout cas, moi, je serai dimanche soir à Lille-Lyon. Il y aura 50 000 personnes. Le stade sera peut-être couvert. Je ne dirai pas confiné, parce que ce serait interdit. Mais en tout cas, permettez-moi de penser qu'aujourd'hui, la vie doit quand même continuer avec toutes les mesures de précaution qui sont envisagées aujourd'hui par le pays.
Eh bien, merci beaucoup, Patrick Kanner, d'avoir été mon invité ce soir.
Europe 1.
À suivre, Nathalie Lévy. À suivre dans cette édition, on va parler d'un film événement, un documentaire qu'il faut absolument voir dans ces prochains jours. Les réalisateurs Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova vont d'ailleurs nous rejoindre pour en parler. Ça s'appelle Woman, c'est en salle depuis quelques heures. Un film pour raconter ce qu'est d'être une femme aujourd'hui en 2020 à travers les témoignages de femmes du monde entier. Gros plan donc sur ce produit que vous allez découvrir grâce à nous et sur ses auteurs. C'est à suivre.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, avant 19h30, on prend un temps d'avance, on s'intéresse à ce qui va se passer demain. C'est votre grand journal.
Et c'est demain en France avec l'inauguration de la Cité audacieuse à Paris. Et oui, on est à quelques jours du 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Cette inauguration demain est pleine de symboles. Elle s'appellera la Cité audacieuse, vous l'avez compris. Cela faisait 20 ans que les féministes réclamaient l'ouverture d'un tel lieu. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Un toit, quatre murs, qu'est-ce que c'est que cette Cité audacieuse?
Eh bien ce sont 1000 mètres carrés, deux étages, un bâtiment de pierre, rue de Vaugirard, dans le très chic 6e arrondissement de Paris. Pour vous situer, on est entre le Sénat et la Sorbonne, juste à côté du théâtre de l'Odéon. Alors quand vous arrivez devant ce numéro 9 de la rue de Vaugirard, vous ne pouvez pas manquer d'esquisser un petit sourire puisque c'est une ancienne école primaire communale de jeunes garçons. Donc le symbole est assez fort. Après quelques travaux, ce sera donc demain le haut lieu de ce pouvoir féministe, comme disent les associations. Une quinzaine d'entre elles seront hébergées ici, rue de Vaugirard. Le collectif 50-50, dont on a beaucoup entendu parler récemment, pour qui prône l'égalité dans le monde du cinéma. La Fondation des Femmes, Règles élémentaires aussi, qui lutte contre la précarité menstruelle. L'idée, c'est vraiment de regrouper toutes ces associations pour leur donner du poids, de la visibilité, encourager les synergies pour créer des projets communs. À quelques mètres donc du Sénat, impossible, disent les associations, de faire comme si nous n'existions pas.
Et ça, Pauline, c'est une première en France, on a du mal à le croire.
Et ben exactement, c'est une première, ça paraît assez fou parce que finalement on se dit, bon bah pourquoi ça a été si compliqué? Mais rendez-vous compte, l'idée a mis près de 20 ans à se concrétiser. Elle est née en fait quand Bertrand Delanoë est devenu maire de Paris en 2001. L'idée s'appelait à l'époque Cité des Femmes, et pas grand chose qui a changé, hein. C'était aussi l'idée de faire des débats, des conférences en prenant pour modèle la maison Amazon ouverte il y a 20 ans à Bruxelles, ouais, ou le Centre des Femmes à Montréal. C'est donc la Fondation des Femmes, la structure qui a été créée il y a 4 ans pour soutenir toutes ces associations féministes, qui met en œuvre donc ce projet, ouverture des portes demain soir.
Ouais, et je crois que les architectes, c'était essentiellement des femmes pour ce projet.
Architectes féministes, voilà. Exactement, pour penser l'espace pour les femmes.
Ouais, voilà, c'est complet, c'est fait, ça a mis du temps. Merci beaucoup Pauline Jacquot.
Merci.
Merci à vous Pauline Jacquot et Demain dans le Monde avec Didier François qui s'est installé à mes côtés. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marqué par les enjeux de la loi climat, présenté aujourd'hui à Bruxelles par la Commission européenne devant une invitée inattendue, Greta Thunberg, qui a modérément apprécié d'ailleurs. Hein. Et avant la tenue en France ce week-end de la Convention citoyenne sur le climat.
Alors oui, c'était d'ailleurs un moment original. La jeune militante suédoise a sagement pris sage avec ses tresses et sa gourde en inox entre les costumes gris et les tailleurs pied de poule des commissaires de l'exécutif européen qui lui ont donc présenté leur pacte vert visant à obtenir une neutralité en émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Alors tout ça s'est parfaitement bien passé pendant la réunion, d'autant que Greta Thunberg n'avait évidemment pas droit de parole. En revanche, elle ne s'est pas gênée pour dire tout le mal qu'elle pensait de ce plan quelques heures plus tard devant le Parlement européen, où là, dans un discours très offensif dont elle a le secret, elle a fustigé le manque d'ambition de l'Union européenne, accusée de ne pas avoir pris toute la mesure de la crise climatique dès lors qu'elle a accepté de prendre en compte les impératifs économiques de certains pays membres très dépendants des énergies fossiles et qui résistent à des quotas de limitation trop rapides et trop importants.
Ce qui est le cas d'ailleurs de la Pologne, hein, pour ne citer qu'eux, mais on pourra en citer d'autres, dont 80% de l'électricité provient du charbon.
Absolument, c'est le cas le plus emblématique, mais effectivement, d'autres pays sont également concernés, en Europe de l'Est, la Grèce, Malte, mais même l'Allemagne. Et tous ont plaidé pour un calendrier de réduction d'émissions de gaz carbonique visant plus l'année 2050 que l'année 2030, ce qui est la demande des organisations écologistes. C'est d'ailleurs un débat difficile qui touche aussi bien les pays les plus en retard que les pays les plus avancés, comme les Scandinaves, les Pays-Bas ou la France. On l'a bien vu, la taxe carbone a quand même déclenché en France la crise des Gilets jaunes, d'où la mise en place donc de cette fameuse convention citoyenne sur le climat, qui va se réunir à nouveau ce week-end, et dont l'objectif est d'essayer de trouver un équilibre acceptable par le plus grand nombre entre les impératifs écologistes et leur coût social, parce qu'évidemment, un plan vert, ça a un prix.
Ouais, ouais. Cette convention climat qu'on suivra également, bien sûr. Merci beaucoup Didier François. Demain dans nos vies maintenant, avec vous Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Avec l'arrivée du coronavirus en France, beaucoup d'informations circulent sur Internet, nos réseaux sociaux, avec évidemment tout un lot de fake news. Du coup, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a décidé de prendre les devants.
Oui, il faut dire que depuis l'apparition du virus, l'OMS s'arrache un peu les cheveux avec ce qu'elle appelle l'infodémie massive. Tout un tas de fake news auxquelles l'organisation doit répondre. Non, le coronavirus n'est pas transmis par les moustiques. Oui, recevoir un colis de Chine est sans danger. Non, se laver les mains avec de l'urine, manger de l'ail ou prendre de la cocaïne n'empêche pas d'attraper le virus. Oui, il y en a des gratinés. Le problème, c'est que toutes ces fausses infos circulent sur nos réseaux sociaux qui sont devenus pour beaucoup la première source d'information.
Bah oui, vous avez entendu tout à l'heure Charles Villeneuve qui disait que ça pouvait se transmettre avec la chaleur du sèche-cheveux quand même. Hein. C'est ce qu'on lui racontait. Du coup, pour traiter le problème à la racine, l'OMS s'associe justement aux réseaux sociaux.
Oui, l'OMS qui a réuni Facebook, Twitter et Google notamment pour leur demander un coup de pouce. Facebook qui s'est engagé par exemple à identifier les contenus douteux et faire en sorte qu'ils soient le moins visibles possible et qu'à l'inverse, les contenus relayés par l'OMS soient très partagés. Pareil pour Google qui travaille main dans la main avec l'OMS pour que lorsque vous tapez coronavirus dans la barre de recherche par exemple, eh bien ce soit les contenus de l'OMS qui arrivent en premier. J'ai essayé, c'est le cas. Et dernière info en date, l'OMS vient même de s'inscrire sur TikTok, vous savez, ce réseau social qui cartonne chez les ados. Objectif, fournir rapidement des conseils fiables pour un public très jeune avec des petites vidéos. Vous savez, le public très jeune est souvent très exposé aux fake news. Comme quoi, en 2020, lutter contre une épidémie, ça se passe aussi sur Internet.
Évidemment, et peut-être en priorité sur Internet. Merci beaucoup Théophile Cossa.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, deux invités dans ce studio, Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, pour célébrer les femmes. À eux deux, ils ont affronté le monde pour nous donner la parole, à nous les femmes, recueillir leurs témoignages, raconter leur quotidien, leur combat, leur volonté, leurs épreuves. Ce très beau film est en salle depuis tout à l'heure, ça s'appelle Woman. Il nous en parle mieux que personne dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
De nouvelles annulations liées au coronavirus, le salon MIP TV prévu à Cannes et qui rassemble chaque année les professionnels de la télévision du monde entier est supprimé. Le salon Cannes Série également est lui aussi repoussé en octobre. L'Italie ferme ses écoles et universités pour 10 jours. Le pays a comptabilisé plus de 100 morts depuis le début de la crise. Les ministres des Finances de la zone euro se disent prêts à desserrer les contraintes budgétaires pour permettre aux États de soutenir l'économie. Demain, Emmanuel Macron va réunir à l'Élysée les chercheurs qui travaillent sur ce Covid-19. Dans le reste de l'actualité, le modèle Uber remis en cause. La Cour de cassation estime que les chauffeurs devraient être salariés et requalifient leur contrat. Aux États-Unis, Donald Trump salue, je cite, l'incroyable comeback de Joe Biden après sa victoire surprise dans 9 États. La bataille des primaires démocrates qui est désormais réduite à un duel contre Bernie Sanders. Et puis première demi-finale de la Coupe de France de foot ce soir, Lyon-PSG. Coup d'envoi 21h10.
Merci beaucoup Sébastien et votre retour demain à 18h, sans faute. Agité demain, c'est le qualificatif pour le temps dans le ciel.
Exactement Nathalie, et je dirais même plus très agité. Demain, ça commence d'abord sur le nord-ouest avec des pluies assez soutenues et ces pluies vont s'étendre. En fait, demain matin, il y aura un tout petit coin de France, la petite pointe du Languedoc-Roussillon, là dans le golfe du Lion, où il y aura un rayon de soleil et partout ailleurs, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie toute la journée. Des pluies qui deviendront plus intenses dans l'après-midi. Et puis ce vent de sud-sud-ouest qui envahit la France. Il va souffler même fort dans les terres, en moyenne 80 km/h. Et sur les côtes, à 100-110 km/h. Attention, la neige tombe également sur les massifs, massif central, Pyrénées et les Alpes, avec un risque important d'avalanche.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vos invités. Vous recevez Anastasia Mikova et Yann Arthus Bertrand, Nathalie. Jusqu'à 20h, on s'intéresse à un film et à un livre magnifique qui donne la parole aux femmes ce soir.
Exactement, ils sont là tous les deux. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand d'être avec nous dans ce studio ce soir. Et également à vous, bien sûr Anastasia Mikova, bienvenue. Vous êtes journaliste d'origine ukrainienne et vous avez co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand ce documentaire en salle depuis ce matin, qui déjà bouleverse, déjà ne serait-ce que quelques extraits, quelques témoignages bouleversent. Il y a ce livre qui est associé aux éditions de La Martinière, qui est magnifique, qu'il faut absolument se procurer. Alors voilà, ça s'appelle Woman. Ça, vous avez tourné dans 50 pays pour arriver à faire Yann Arthus Bertrand et bien sûr Anastasia, ce produit, mais c'est pas un produit, c'est une œuvre avec un sens qui célèbre la femme.
Je crois que les femmes méritaient un vrai film. Donc après avoir fait Human avec Anastasia, on s'est bien rendu compte tous les deux qu'il fallait faire un film sur les femmes. Donc c'est un film vraiment dirigé par des femmes, puisqu'on a fait une production d'une vingtaine de personnes. On a travaillé quand même pendant 3 ans. Et c'est Anastasia qui a dirigé toutes les interviews, que toutes les interviews ont été faites par des femmes. Moi, je voulais faire j'étais plus parti au départ sur un film sur les injustices, pourquoi les gens les plus pauvres étaient des femmes, pourquoi chez les illettrés, c'est surtout des femmes, pourquoi les femmes font 50% du travail de l'humanité et ne possèdent que 1-2% du capital. Voilà. Et Anastasia m'a dit non, il faut faire un film quand même plus intime. Ils ont amené toute l'équipe. Et je dois reconnaître qu'au bout d'un moment, je me suis aperçu que le film m'échappait un petit peu. C'était génial d'ailleurs, que c'est le film devenait meilleur grâce à toutes les femmes qui étaient là. Il y avait 18 femmes et 2 garçons. Et Anastasia fait un boulot formidable. Le vrai problème qu'on a eu, c'est comment arriver à sélectionner ces 2000 interviews pour faire un film d'1h50. Moi, j'aurais pu faire un film de 24 heures, ça ne m'aurait pas gêné tellement que les femmes nous avaient dit était extraordinaire.
D'ailleurs, mais chaque fois qu'on fait des projections, il veut faire un sondage dans la salle pour demander si le film est trop court. Donc, je me demande si on va le remonter.
Parce que on pourrait continuer encore et encore, parce que vous avez eu évidemment cette subtilité, Anastasia, Yann Arthus Bertrand. Anastasia, de monter évidemment les séquences avec une fluidité incroyable. On passe du rire aux larmes, de l'émotion à la surprise, on a des témoignages cocasses parfois et puis emprunt d'une vraie profondeur juste après.
C'est vrai que c'est un vrai ascenseur émotionnel, c'est ce qu'on nous dit souvent. Et en même temps, c'est ça la vie d'une femme. Heureusement que ce n'est pas qu'un catalogue d'injustices qu'on subit dès notre enfance et jusqu'à la fin. Heureusement qu'il y a plein d'autres choses plus drôles.
Ça, c'était important drôle. Aussi de le montrer, Anastasia.
Oui, on voulait briser les tabous, mais tous les tabous. Et pas forcément que les choses difficiles. Parler de la sexualité, par exemple, ça nous paraissait essentiel. Et pourquoi ça reste un tabou de parler de son plaisir, de l'orgasme? Voilà, donc moi j'avais très envie qu'on aille aussi sur des sujets comme ça. Mais après, je vous avoue.
Mais on n'a pas été
déçus. Je ne savais pas si ça allait marcher.
Oui, parce que les femmes se révèlent. Est-ce que les femmes, Yann Arthus Bertrand, se révèlent plus facilement face à une femme, en l'occurrence vous, Anastasia Mikova?
Les qualités des femmes se révèlent beaucoup plus. D'abord, les femmes entre elles, vous connaissez ça, la sororité, c'est un mot que je connaissais à peine avant de commencer le film. Les femmes, elles se parlent parler de sexe, par exemple, j'étais incroyable que ce que nous, les garçons, jamais on parle de sexe comme ça. Ça serait sale. Alors que avec les filles, il y a quelque chose de beaucoup plus léger, de plus gai.
On sourit d'ailleurs quand on parle de sexualité, vraiment dans le documentaire. On sourit, on n'est pas là du tout pour.
Voilà. Et en fin de compte, c'est un grand film d'amour sur les femmes. On a dédié ce film à nos mères. Voilà. Anastasia, une mère incroyable qui laisse toute sa vie. Moi, ma mère, que j'étais pas assez respectée. Donc, c'était vraiment. J'avais besoin. Moi, c'est un film qui a changé ma vision des femmes de ma vie, sur les femmes de ma vie, bien sûr.
Vous parliez de briser des tabous, Anastasia, Yann Arthus Bertrand. C'est vrai. D'ailleurs, le livre le rappelle. Si jamais on n'a pas encore vu le film, on peut se procurer le livre aux éditions La Martinière. Il y a ces très belles images de femmes dénudées, de femmes en surpoids, de femmes obèses, de femmes aussi âgées, très âgées.
Ma tante, 92 ans, qui s'est déshabillée. Ouais.
On est dans des seniors plus, là.
On a fait ça avec Peter Lindbergh.
C'est tellement rare.
Un très grand photographe de mode qui est disparu au mois de juillet, qui était venu voir les rushs, qui avait pleuré avec nous, et puis on a sympathisé. Et quand on a eu ce projet d'illustrer des femmes de la rue, des femmes normales, parce que toutes les femmes sont, et même ces femmes-là sont magnifiques, c'est ça qui est beau.
C'est pas même, en fait.
C'est pas même, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qu'il faut.
On est dans un canon de beauté beauté parfaite. Eh bien non, là on montre que toutes les femmes sont belles.
Et oui, c'était évidemment important, Anastasia Mikova, de par ces images de femmes très âgées, changer le regard des autres. Elles ont accepté facilement.
C'était intéressant parce que nous, c'était pas tant elles qui étaient gênées, c'est presque nous qui étions plus gênées. Et d'ailleurs, Yann, le matin même de ce tournage, se demandait oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce que ça va être, elles vont toutes se retrouver nues, on va faire quoi, etc. Et finalement, une fois qu'elles enlevaient ce peignoir, c'était ce moment qui était presque le plus compliqué, mais c'était comme un acte de courage de se dire eh oui, je n'ai pas honte, et oui, je m'assume et je me montre telle que je suis. Et alors, où est le problème? Et finalement, sur plein de sujets différents, c'est ce qu'on a voulu montrer dans ce film. Où est le problème?
Où est le problème?
Et on voulait montrer aussi toutes les femmes qui ont eu les ablations du sein,
bien sûr,
au cancer, qu'elles assument. Il y a une femme qui est venue à une projection à Lille qui a dit que ça l'avait libérée complètement de se montrer à la, sans sein. C'était, pour elle, ça avait changé sa vie. Il y avait un jour avant et un jour après.
Changer la vie des femmes, est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de vivre en ce moment, en 2020, en tout cas cette révolution qu'on sent monter? On s'en parle dans un petit instant avec vous. Ça s'appelle Woman, c'est en salle depuis ce matin. Avec vous, Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy et vos invités, Nathalie. Ce soir, vous recevez les réalisateurs Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Ils nous présentent leur dernier film accompagné d'un très beau livre et ça s'appelle Woman.
Oui, ça s'appelle Woman. Je ne vais pas vous demander, Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova, de me dire quel est le témoignage qui vous a le plus touché parce que c'est impossible. Le film, juste, va sortir dans les 50 pays où vous avez mené les entretiens.
On aimerait bien. Il y a des pays, on cherche des distributeurs partout.
Il a déjà été pris dans plus de 20 pays, où il va sortir autour de la journée des droits des femmes, donc le 8 mars. Et ça, c'est déjà exceptionnel pour un film sous-titré dans plein de langues différentes, etc. Donc on est très fiers. Et après, on a aussi beaucoup travaillé avec les ONG du monde entier qui nous ont accompagnés sur les tournages pour aussi avoir la confiance de toutes ces femmes. Et dans les pays donc, où il n'y aura pas de sortie salle, on va faire des grands événements et des petits aussi avec toutes ces ONG pour que justement les femmes qui ont participé et plein d'autres aussi puissent le découvrir.
On s'est rendu compte en faisant ce film qu'il y avait beaucoup de pays où il manquait de femmes journalistes. Donc, tous les bénéfices du film vont à une association qu'on a créée qui s'appelle Women's School, qui va aider des femmes à devenir journalistes, travailler dans le cinéma, dans les médias.
Oui, j'allais dire journaliste, c'est un peu réducteur, effectivement,
dans les métiers des médias.
Dans tous les pays, il y en a 3 projets pour l'instant, au Brésil, au Liban et en Inde. J'espère qu'on en aura beaucoup plus. Ouais.
On a une auditrice qui voudrait vous poser une question, si vous permettez. Laetitia nous appelle de région parisienne. Bonsoir Laetitia.
Oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, merci beaucoup parce que moi qui travaille au quotidien pour les femmes, ça, je pense que ce film-là va énormément nous faire du bien. Parce que, après ce que j'ai entendu, je remarque que finalement vous allez mettre à l'honneur toutes les femmes et pas que certains critères de beauté. Donc, déjà, je tenais à vous remercier. Et moi, la question qui me pose, voilà, parce que vous avez pu aller rencontrer plein de femmes dans différents pays. Quel est le moment qui, c'est pas qui vous a plus marqué, en termes d'inégalité?
Ah oui. Le plus violent, finalement, en termes d'inégalité?
Exactement, en termes d'inégalité. Parce que nous, en France, déjà, on se sent, en tant que femme, avec tout ce qui se passe en ce moment, déjà, on se sent parfois pas dans de bonnes positions. Mais quel est le pays où les femmes se sentent vraiment en danger?
Alors, moi, je peux répondre pour l'Inde, en tout cas.
Anastasia,
alors l'Inde est un pays où véritablement les femmes, vous savez, quand vous avez une fille en Inde, c'est très compliqué parce que si on n'a pas de dot, on ne peut pas la marier. Donc, il y a des échographies. Les échographies sont interdites maintenant en Inde parce que beaucoup de femmes avortent parce qu'elles sont enceintes d'une fille. Donc, il manque des filles en Inde. Et puis, beaucoup de femmes qui meurent dans les accidents ménagers, souvent faits par la famille du mari, afin que le mari puisse se remarier. La vie des femmes en Inde est une calamité. C'est vraiment le pays du monde où moi, j'ai eu l'impression que toutes ces femmes brûlées à l'acide, on en a quelques-unes dans le film. Et puis, tous ces intouchables. Les intouchables, ils sont 160 millions. Et c'est des gens, vous savez, qui n'ont pas de maison, qui ne peuvent pas aller à l'école. C'est véritablement la vie des femmes en Inde. Et on l'a vu dans Human, extrêmement compliqué.
Moi, c'est pas tant un pays que j'aimerais mettre en avant en disant le pire pays les femmes. C'est plutôt un sujet. C'est-à-dire que je savais que la vie des femmes n'était pas forcément facile et qu'elles subissaient des violences. Ça, quand même, je découvre pas la vie. Mais le niveau, le degré des violences que les femmes subissent dans le monde, si on devrait rendre ça de façon proportionnelle dans le film, 70% du film parlerait des violences que les femmes doivent traverser d'une façon ou d'une autre.
Quelles qu'elles soient, ces violences.
Exactement, quelles que soient psychologiques, physiques, morales, etc. Et ça,
c'est quand même dingue. Et donc nous, on a fait le choix de se dire, ok, heureusement que la vie d'une femme, ce n'est pas que ça, donc on va parler de plein d'autres sujets, parce qu'en même temps, les femmes sont tellement fortes, elles sont tellement résilientes, et c'est ça qui nous a frappés. Mais de voir le degré de violence, ça a été un choc pour moi.
Merci Laetitia de votre appel. Justement, alors il fallait faire un film positif, c'était une sorte de mission, une sorte de religion.
Non, mais vraiment, on ne fait pas comme ça. On part sur une idée et on ne sait pas très bien d'ailleurs à quoi va ressembler le film. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va expliquer à la dans la Fondation Coupe ce week-end. Évidemment, il y a ce rendez-vous avec tous les journalistes. C'est vraiment un endroit où il faut venir voir et discuter avec les journalistes et voir d'autres films.
Porte ouverte hein, ce week-end.
C'est vraiment une porte ouverte et c'est gratuit. Donc
c'est gratuit, donc on peut y aller effectivement.
Fondation Coupe dans le Bois de Boulogne. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on part sur... On commence les interviews. Après, le film se monte avec ce qu'on nous a donné. Mais... Et de toute façon... On voulait garder un certain équilibre. Et bien sûr, quand vous allez au Congo faire les femmes violées du docteur Moïkwebe au Congo, c'est
l'excision aussi.
Voilà, mais
mais bien sûr, ces mêmes femmes vont te parler
aussi
du jour où elles ont appris à écrire, qui a été le jour le plus heureux de leur vie, le jour où elles sont retombées amoureuses à nouveau. Une victime n'est pas qu'une victime. Une femme qui a subi des violences n'est pas que ça.
Bien sûr, une femme malgache qui parle de ses rapports avec son mari, du sperme de son mari. Enfin, il y a vraiment, effectivement, c'est pour ça que je disais ça en préambule quasiment. Oui. C'est très subtil. Vous êtes allé d'un sujet à un autre comme ça. Et du coup, on regarde ça avec envie, avec émotion. Question, bien sûr, on voit ce qui se passe aujourd'hui en France, on voit ce qui se passe aux États-Unis, le 7e art, la révolution des femmes, clairement, qui aujourd'hui dit stop, stop, c'est fini, la domination masculine dans le monde artistique, entre autres, hein, bien entendu. Comment vous regardez tout ça? Parce que vous arrivez là en même moment, même si vous avez mis 3 ans, je crois, hein, pour 4 ans pour arriver à ce documentaire. Comment vous regardez tout ça?
C'est, vous savez, moi je pense que c'est très important la libération de la parole dans tous les milieux, aussi bien artistiques qu'ailleurs. Et donc ça déjà c'est un premier pas et nous c'est ce qu'on a constaté dans la vie des femmes, de se réapproprier son histoire et de se dire ok c'est moi qui la prends en main, plus personne ne va parler à ma place, c'est un énorme pas. Et donc ça moi je suis très très heureuse. Après on sent qu'on va aussi dans un monde de plus en plus divisé, où finalement il n'y a plus de dialogue. Et nous on a essayé de faire un film où il y a du dialogue, où il y a justement cette conversation entre les hommes et les femmes. Et il y a une femme qui était à l'avant-première hier, qui m'a écrit un long message, qui m'a dit, tu sais, ça a été une thérapie pour mon couple, parce que je suis venue avec mon mari et il y a plein de sujets. Il m'a dit, tu sais, tout ce que je peux te dire sur telle ou telle chose, quand tu as tes règles, je te dis, oh, mais non, mais pas, etc. Tout ça, j'aimerais m'excuser. Ça a été une thérapie pour mon couple. Ouais. Ben voilà, j'aimerais que ça soit une thérapie pour tous les couples.
Alors, on va revenir quand même sur cet aspect, parce qu'on a regardé les Césars tous vendredi soir, et bien sûr, on voit cette révolution en marche, mais qui clive aussi. On s'en reparle dans un petit instant. Woman, c'est sorti aujourd'hui. Et il y a le livre aux éditions de La Martinière. A tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec un très beau film à découvrir. Un film qui s'adresse aux femmes, qui parle des femmes. Il est signé Anastasia Mikova, Yann Arthus Bertrand. Ce sont vos invités, Nathalie Lévy. Et ce film s'appelle tout simplement Woman.
Ah oui, avec le livre aux éditions de La Martinière. Il faut absolument voir ce film. Vous allez rire, vous allez évidemment pleurer. Il y a des témoignages incroyables. Une petite fille de 9 ans, violée par des membres de Daesh, notamment. On va en parler dans un instant. Juste parce qu'on en parlait avec Anastasia Mikova juste avant. Et Yann Arthus Bertrand, je voudrais avoir votre regard quand même, parce que bien sûr, on sent qu'il se passe quelque chose. Les femmes aujourd'hui veulent non pas prendre le pouvoir, mais simplement redonner de la voix, exister, fini la domination masculine. On l'a bien compris aussi pendant les Césars vendredi soir. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque que cela devienne contre-productif quand on voit combien c'est clivant, effectivement?
C'est drôle parce que je ne me sens pas trop concerné. Après avoir fait ce film, avoir vu ce qui se passe dans le monde... Alors, c'est peut-être pas politiquement correct ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'on est, loin des vrais problèmes des femmes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est... Il y a des tensions qui se sont faites. Bien sûr, il y a eu plein de femmes qui ont eu... Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que comment les femmes parlaient des années après. C'est-à-dire que sur le coup, on a honte de ce qui s'est passé et il faut des années pour en parler. Et ça, c'est une chose dont on a vraiment compris dans le film. Voilà... Et il faut savoir demander pardon quand on a fait des choses si violentes et si dures. Et je me demande si le pardon a été demandé, voilà, a été dit. Je regrette. On a l'impression, non, j'ai rien fait. Ouais. C'est un peu, ouais. Il s'est bloqué, quoi, quelque chose. n'y a pas d'acceptation de ce qui s'est passé. Il y a forcément quelque chose qui a dû se passer. Alors, je ne connais pas bien tous ces dossiers.
Non, sans aller dans le dossier.
Compliqué.
Simplement, je veux dire, ça crée un climat.
J'ai trouvé que Foresti avait été peut-être... je ne sais pas. Je l'ai regardé parce que moi, le César, ça m'intéresse. Je vote au César. Mais ça ne correspondait pas. Je n'avais pas envie de t'entendre parler de ça. Voilà. Pas ce soir-là.
Pas ce soir-là dans une grande fête de
cinéma.
Mais
en même temps, je comprends très bien qu'il y a des actions, instinctives, voilà, qu'on ne peut pas faire autrement que quitter la salle si on est... Et il faut le respecter aussi. Voilà.
Dites-moi, il y a ce témoignage, je voudrais y venir quand même. Le récit du viol d'une petite fille de 9 ans par des membres de Daesh. Anastasia, comment réagir quand on est en face d'une telle histoire ? Ce n'est pas du cinéma. Là, c'est une histoire vraie qui se joue.
Comment réagir comme un être humain, en fait. On n'est pas de l'autre côté de la caméra.
Comment vous trouvez les mots ?
Parfois, on ne les trouve pas, les mots. C'est ça, c'est la vie. Et parfois, on s'écroule avec la personne et parfois, on s'arrête. On ne peut plus travailler pendant toute une journée. Et moi, c'est vrai que d'ailleurs, travailler sur ces projets a complètement changé ma vision et mon approche du métier. Parce que voilà, je viens du journalisme d'investigation.
Absolument.
J'ai fait beaucoup de sujets assez durs. Mais j'avais toujours mis une barrière entre moi et les autres en me disant, sinon, comment je continue ? Ce n'est pas possible. Et là, en me retrouvant face à toutes ces femmes qui se confiaient entièrement comme elles n'avaient jamais fait, mais tu ne peux pas te dire, il y a une barrière, tu ne peux pas te dire, moi je vais rentrer chez moi, boire un petit thé et me coucher, ce n'est pas possible. Donc forcément, tu vis avec l'autre et tu partages des émotions très très fortes. Et d'ailleurs, c'est fou parce qu'il y a des femmes qu'on a vues qu'une seule fois et se sont devenues presque des amies parce qu'on a partagé quelque chose de tellement fort que ça reste à vie.
Ouais.
Mais ce qui s'est passé... Excuse-moi, ce qui s'est passé en Syrie et ce qui s'est passé au Congo, c'est inimaginable. C'est une violence et Anastasia n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense, alors je dis d'une façon sincère, je pense que le mal est du côté des hommes. Oui, je pense qu'on a en nous une espèce de violence. D'ailleurs, regardez en prison. Dans la prison, c'est 3% seulement de femmes. Ça veut dire quelque chose. Et ce qui s'est passé en Syrie, c'est une telle violence. C'est cette femme qui raconte qu'une petite fille de 9 ans choisie par un type qui va la violer au-dessus, alors que toutes les femmes écoutent quand elle en parle, mais c'est glaçant. Et quand vous voyez ce qui est... Et d'ailleurs, il faut écouter le discours du docteur Mukwege, du prix Nobel de la paix, c'est gratuit, c'est regarder sur YouTube, c'est absolument génial, ce docteur qui parle de ce qui se passe au Congo. On connaît les responsables et on ne les punit pas. Il se passe des choses quand même qu'on ne peut plus accepter à l'heure actuelle. C'est inimaginable.
Vous êtes rangé du côté des femmes, Yann Arthus Bertrand, on l'a compris. D'ailleurs, vous avez dit dans Paris Match, vous avez longtemps été un macho. Mais comment vous avez
J'ai pas vu le Paris Match, il faut que je le voie.
Bah oui. Comment vous avez eu cette prise de conscience, en fait, ce réveil ? Parce que donc ça n'a pas toujours été le cas.
J'ai été élevé dans une famille où le père dirigeait, où la mère qui avait 6 enfants travaillait toute la journée. Et il faut imaginer que ma mère, elle a dû voter un carnet de chèques dans les années 60. Quoi. On ne peut même pas imaginer ça, ou des années 50, quoi, que les femmes n'avaient pas de carnet de chèques. Quoi. Et donc, ma mère n'a jamais pu travailler, alors qu'elle aurait rêvé, je pense, avoir un vrai travail. Et je n'ai sans doute pas assez respecté ça. Et en regardant toutes ces interviews de femmes m'ont pénétré le cœur, quoi, et véritablement m'ont changé. Bon, je pense qu'on grandit toujours, on vieillit, mais surtout on grandit. Et je le regrette, oui, je le regrette.
Comment, pour les coulisses un petit peu de ce documentaire, donc Woman en salle depuis ce matin, comment vous vous êtes réparti les rôles, Anastasia Mikova, avec Yann Arthus Bertrand ?
Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les interviews avec les 5 journalistes qui nous ont accompagnés pendant les 2 années de tournage. Et voilà, après, Yann était plutôt sur la vision artistique, comment on les filmait, voilà, quelles sont les images, quelle lumière, plutôt toutes ces parties-là. Et après, on échangeait quotidiennement, évidemment. Yann regardait tous les entretiens. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que pour moi, c'était aussi un avis masculin.
Un œil masculin,
en plus d'un
bien
homme
sûr.
D'une autre génération que la mienne et qui avait parfois un regard le même que moi et parfois un regard à l'opposé de moi. Donc on a eu beaucoup de discussions. Et voilà, moi, ce que Yann disait sur les hommes tout à l'heure, je ne suis absolument pas d'accord avec
mais
ça.
Mais oui, je vous voyais
mais vraiment mais oui. Pas du tout. Et je trouve que le film le dit si bien. Je trouve que le film le montre si bien qu'en fait, on ne n'est pas violent, on ne n'est pas tueur, on ne n'est pas victime, on le devient parce qu'il se passe des choses dans
la société.
Les femmes sont enfermées dans une sorte de... carcan dans une sorte de... Et les hommes également, donc c'est plutôt ça moi que je ressens.
J'ai l'impression que les hommes peuvent faire des choses que les femmes sont incapables de faire.
Voilà, on verra, bon. En tout cas il se passe quelque chose clairement et c'est ce qui se passe aussi dans votre film qui le montre, ça s'appelle Woman évidemment, avec ce film et ce livre aux éditions de La Martinière et puis c'est porte ouverte à la fondation Good Planet ce week-end pour le voir
pour
ce film, pour en discuter.
Ouais, pour parler, voilà,
pour bien rencontrer sûr. Les équipes,
et rencontrer
qui
les
sont
équipes.
Présentes pour raconter
et montrer des interviews qui n'ont pas été mises dans le film.
Voilà, donc c'est le complément ce week-end. Porte ouverte. Anastasia Mikova, Yann Arthus Bertrand, merci beaucoup d'être venu ce soir dans notre studio d'Europe 1. Merci à vous. Émilie Mazoyer, vous êtes une femme.
Oui, et vous... je confirme. Je vais être coupable.
Et on vous écoute chaque soir.
Oui, et ce soir, mon invitée est aussi une femme artiste, rare, perfectionniste, étonnante, précise et précieuse et très talentueuse, Émilie Simon. Vous l'aviez découverte en 2005, probablement, quand elle a fait ce que vous entendez, c'est-à-dire la bande originale du film La Marche de l'Empereur, avec les petits manchots, voilà. Et elle est de retour.
C'était elle.
Elle fait la bande originale du nouveau film de John Turturro, qui s'appelle The Jesus Rolls. Elle vient nous en parler ce soir.
Alors, on reste avec vous,
merci.
Branchés sur Europe 1, pour écouter Émilie Mazoyer, Émilie Simon. Merci beaucoup. Demain soir, ici même, votre grand journal du soir, avec bien entendu des débats, des invités, du dialogue. Merci beaucoup Yann Arthus Bertrand, merci Anastasia Mikova. L'info continue. À demain, Anissa.
Évidemment.
Et on reste ensemble pour écouter le monde changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.